Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 9 novembre 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 14h, il n'y a pas de du sport qui rééduquera vos oreilles. À 15h, de la musique de film avec encéphalogramme plat. Eh, hey, il y a un vrai programme pour une fois. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le film d'horreur pour teenagers des 70s que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Mais il y a aussi un épisode où, attention, Burt Reynolds joue Dieu et toute la bande-son. Toute la bande-son, c'est un album de Carl Zero.
C'est pas vrai.
Si. L'album en question, c'est Songs for Cabriolet and Otros Tipos de Vehículos. À cette époque-là, Carl Zero est l'animateur du vrai journal, mais aux États-Unis, il est totalement inconnu. Mmh. Hein, personne ne sait qu'il a joué dans un film de BHL, par exemple.
The News.
Écoutez le Super Week-end en direct sur Radio FMR de la Cinémathèque de Toulouse avec Ultimatum du Sport et Das Rich. Bonjour!
Ouais!
Ça faisait longtemps, oui, c'est là qu'on l'avait pas passé, non?
Ouais, ça faisait longtemps.
Ouais,
alors,
ça pète un peu les oreilles, c'est ça?
Ouais, il y a une bruit de masse énorme, énormissime.
Non, mais ça y est, je l'ai retiré là.
Non, moi je l'ai toujours.
Bon, d'accord, ok. Bonjour et bienvenue. Nous sommes donc dans le suppléant week-end numéro 368 déjà. Et nous sommes donc en direct de la Cinémathèque de Toulouse. À vrai dire, je vais vous avouer une chose, on avait un tout autre programme qui était prévu. Seulement, il y a des dizaines de milliers de programmes qui ont été distribués en ville et qui ont dit... Le supplément week-end est en direct de la Cinémathèque de Toulouse. Et on l'a zappé.
Ouais, on a...
On l'a zappé. Alors, honte à nous, honte à l'équipe à l'équipe du supplément week-end. Nous sommes vraiment désolés pour l'équipe qui nous reçoit avec un immense plaisir.
Non, mais Xavier, on n'est pas obligé de le dire à l'antenne, ça, qu'on avait zappé. En fait, du sport, il nous avait dit qu'il avait vu que nous étions en direct de la Cinémathèque quand le programme a été édité il y a un mois et demi. C'était marqué supplément week-end le samedi midi. Toi, qu'est-ce que tu faisais, toi?
Je sais pas, mais.
Tu faisais la sieste encore.
Ben oui, et donc résultat, nous sommes au Festival Extrême Cinéma, le festival du film déviant. Thomas, tu te fous de ma gueule là.
Film déviant, oui.
Oui, alors.
Ah
pourquoi...
non, on avait dit déviant, mince, moi j'ai Luchon.
Pourquoi t'as pris une bouteille de Luchon?
Ben je sais pas, c'est un oubli fâcheux.
Ok, désolé. Bref, c'est un festival qui fait sa 15e année, lui aussi.
Oui, c'est en pleine.
Chaque fois on y va.
En pleine crise d'ado.
Oui, très belle intro d'ailleurs, très bien envoyée. Et moi aussi d'ailleurs, je fais ma crise d'ado d'ailleurs.
À 20 ans, tu crois que c'est encore un âge de dindo?
Je n'en sais trop rien. À vrai dire, ça fait 10 saisons que nous faisons le Super en week-end et cela fait 20 ans que je fais de la radio. Aujourd'hui, ce mois-ci, et il est temps de regarder derrière nous. Alors ouais, on ne fait pas l'information quand même, hein, je vais vous l'avouer. On fait de l'amusement ou de l'entertainment, like they said in English. Et oui, nous sommes plus dans le ton de Top Gear avec Jeremy Clarkson que des matinales de France Culture avec Marc Vancher. Marc d'ailleurs, hein, ancien de la radio lui aussi. Nous nous sentons plus proches des 101% de nos lives que du cercle de Canal Plus Cinéma. Nous sommes le média le plus accessible du marché. Un poste de radio coûte moins cher qu'une télévision. Nous capter en FM ne vaut rien par rapport à un accès internet. Nous sommes plus économiques qu'une carte de prêt d'une bibliothèque municipale et contrairement à un quotidien gratuit, nos articles ne sont pas dictés par des impératifs publicitaires. Nous sommes donc, et je l'avoue ici, un guide de la consommation. Nous avons pourtant une obligation de sincérité. Et à ceux qui nous consacrent du temps à nous écouter, nous leur devons du plaisir, du bon temps, de l'enthousiasme pour affronter un quotidien morose. Et si, après un achat suite à une de nos émissions, vous avez l'impression que vous avez gâché de l'argent, eh ben, c'est que nous aurions trahi et ça, franchement, ça nous fendrait le cœur. Et n'oubliez pas ceci, quand nous n'aimons pas, nous flinguons. Comme ça, non, nous flinguons, on y va direct. Ni publicité, ni le copinage... Si, parfois il y a eu du copinage. Hein,
quand même.
Ni l'audience ne sont notre but, mais prouver que nous valons votre confiance, ben franchement, vous allumer avec notre flamme, c'est un vrai bonheur. Et souvent, nous n'avons pas le même avis, ce qui ne nuit en rien à la complicité qui unit notre équipe. Nous faisons un travail carré, documenté, mais nous refusons de nous prendre au sérieux. Et nos failles sont prétextes à rigolade. Pourquoi vous me regardez comme ça là?
C'est parce que il y a un technicien qui est en train de nous enlever la masse. Attends, Oula.
Oui, il a carrément coupé la diff.
C'est mieux. Attends, il y a Pablo qui est en train de nous rebrancher des câbles.
Attention. Il y a Kinou qui est vraiment. C'est là où on voit qu'on est une radio alternative. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Bref, vous voyez le genre.
Et c'est mieux, on s'entend. Ah ouais, c'est le fil câble qui est. Ouais, tu vas le mettre à la poubelle. Alors à la poubelle recyclable, hein. D'accord. Et...
Bref.
Et je t'entends maintenant.
Bref, souvent nous n'avons pas le même avis, ce qui ne nuit en rien à la complicité qui unit notre équipe. Nous faisons un travail carré, documenté, mais nous refusons de nous prendre au sérieux et nos failles sont prétexte à rigolade, enfin en tout cas je l'espère. Nous voulons vraiment vous faire partager des passions et qu'elles illuminent votre vie quotidienne, comme la réalisation de ces mondes imaginaires donne du plaisir à leurs auteurs. Ceci est notre guide de moralité. Et cela reste toujours un plaisir de griller un jour de repos après une semaine éreintante. Je vous garantis que produire un supplément au week-end, ça nous vide physiquement. Et nous le faisons gaiement, bénévolement. Et nous vous l'offrons.
Oui, surtout toi, le samedi après-midi, pendant la digestion.
Ouais, c'est-à-dire, si vous voyez un truc qui s'est roulé en boule dans un coin et tout ça et qui ronfle, c'est moi, vous inquiétez pas. Parce que, à nous aussi, notre émission, elle fait du bien. Merci à Radio FMR d'être mon diffuseur depuis 20 ans, d'être le support du Super Weekend depuis 9 ans. Merci à Ultimatum, merci à Dusport
de te supporter
depuis ce temps. Merci à Kinou qui est en train de brancher les câbles et rebrancher tout ça en catastrophe aujourd'hui. Merci à la Cinémathèque et à Extrême Cinéma de nous accueillir aujourd'hui. Et merci à vous tous, aux dilecteurs adorés, de vous être déplacés pour nous voir en live. Merci à vous. Donc là, c'est nous qui vous applaudissons.
Bravo! Super! Bravo! Quel talent! Quel talent!
Il y a une chose qui me fait chier à chaque fois
T'as pas applaudi du sport?
Si.
Bon.
Il y a une chose qui me fait chier à chaque fois dans cette émission. Des fois, quand vous écoutez, vous entendez Ouais, je te le passe. Ouais, je te le rends. Ah, file-le. Ça me fait chier. Honnêtement.
Bah, attends,
quand les micros sont ouverts.
Attends, les BD qui sont derrière là. Alors, tu vas me passer le The Boys.
Non, le The Boys, d'abord, je le rends à Dusport. Il me l'a prêté et j'avais pas lu l'avant-dernier tome, donc il m'a tout spoilé.
Alors tu le rends à Dusport.
C'est une horreur.
Tiens,
voilà.
Tiens, Dusport, je peux l'avoir?
Ouais,
merci.
Celui-ci.
Fais-toi plaisir.
La BD de Soledad, je sais qu'il y en a une qui l'attend avec impatience.
Oui, c'est.
Mais je l'ai flingué quand même.
Oui. Bon. J'avais trouvé que c'était aussi de la daube, mais bon, on a nos copines aussi, alors voilà.
Voilà, alors que franchement, Mamada, époustouflante migrante, franchement, ça m'avait beaucoup fait rire. Je pense que ça va peut-être lui plaire. Bon. Les dieux du Kalahari et tout ça.
Sinon, ouais. On n'aime pas se prêter nos BD à l'antenne. Hein.
Non, pas du tout. Mais il y a. S'il n'y avait que les BD! Parce que là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une saloperie, c'est une ignominie vis-à-vis quand même d'un autre animateur. À savoir que ça fait des années que Dusport m'a prêté des DVD et je les lui rends pas. Alors, rien que pour vous dire, et je vous jure que à chaque fois que les filles elles passent chez moi, elles tirent l'amour quand elles voient dans ma bibliothèque The Big Bird Cage ou Woman in Cages, il fallait forcément que ça soit pendant Extrême Cinéma que je te les rende non décellophanées. C'est dire si ça reste. À l'époque, il n'y avait pas encore le Blu-ray qui était.
Bah, il va falloir que je les refourque parce que moi, je les aime et décellophanés, tu vois.
Bon, d'accord.
Quand même.
Okay, attends, il y a quelqu'un qui veut faire une photo.
Non, mais.
Dis plutôt que ça te servait encore chez toi, non? Non, pardon.
Ouais. Ouais. Bah,
Il manque le troisième.
Ouais, femme en prison.
Il doit y avoir Big Doll House aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui.
Et ça, c'est peut-être la pire des saloperies. Ce que je vais faire, c'est un vrai outing. Dusport a une passion. Le film s'appelle Family, le DVD que je lui rends. C'est un film de Rajkumar Santoshi. C'est du Bollywood. Si vous croyez que Dusport aime tout ce qui est violent, aime tout ce qui est gore, aime tout ce qui est ignoble, ou les documentaires de country, c'est vrai.
Mais pas que.
S'il y a bien un truc qu'il aime, c'est les films qui durent 4 heures, avec des femmes qui se balancent dans leur voile et qui se balancent de la poudre pendant qu'ils dansent pendant 7 heures sur du playback et tout ça. C'est vraiment la passion de Dusport.
Rends-moi ça.
On a un invité qui est présent en bout de
alors,
table.
Tu vois, ce mec, c'est un des moguls du cinéma de Bollywood.
Il s'appelle comment?
Amitabh Bachchan, c'est Big B.
Ah bon, ça nous change.
Ah ben, Amita, merci d'être avec nous en bout de plateau.
Et
bonjour.
Et c'est son fils. Hello. C'est son fils qui s'est marié avec Aishwarya Rai.
Ah, Aishwarya Rai. Oui.
Voilà.
Alors ça nous change de, puisque tu parles tout le temps de Shah Rukh Khan, ça nous fait un nom à nous mettre en plus dans la tête.
Ah oui, non, veulent, mais lui, très très bon acteur.
il a une moustache, non?
Et la barbe.
Ouais, ouais. Mais une moustache.
Si on passait aux news, peut-être. Oh là.
Alors,
en fait,
attends,
chaque fois que
tu nous as prêté trop de BD, là, je vais les mettre par terre.
Bah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Figurez-vous que il y a, vous connaissez peut-être J.J. Abrams et Doug Durst. Ils ont sorti un roman qui s'appelle S. Alors, le roman, quand on l'ouvre, il y a des feuilles qui passent et écrit sur les côtés. En fait, ce qui est important, ça n'est pas ce qui est écrit dans le bouquin lui-même. Mais c'est ni plus ni moins ce qui se passe en fait. Faut que j'appuie sur lecture, merde. C'est ce qui se passe dans les marges. C'est parce qu'en fait, il y a deux personnes qui ont écrit dans les marges du bouquin et qui se répondent entre elles. Et donc, c'est un bouquin qui fait un événement suffisamment pour que la BBC envoie un journaliste stagiaire faire une interview des deux. Et qui est le journaliste stagiaire pour faire l'interview? C'est Neil Gaiman. Et donc l'interview a été diffusée hier pendant le journal du soir sur la BBC, et elle est disponible en intégralité sur YouTube. La BBC l'a libérée, d'habitude ils mettent jamais les sujets complets comme ça, et donc là on peut en profiter. C'est vraiment 20 minutes de nerditude assumée, et vraiment très drôle et extrêmement sympa, et franchement ça c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça c'est la grande télé publique, de s'ouvrir comme ça, ça change du bouquin, hein, franchement. Une news absolument stupéfiante pour continuer: figurez-vous que Starship Troopers serait du second degré.
C'est pas vrai.
Si, si. C'est des chercheurs et des critiques américains qui l'ont découvert 16 ans, 18 ans après.
C'est en 97, je crois. Ouais.
Ouais.
2014,
ils se sont dit, ah oui, ouais. Bah, en fait, non, c'est du second degré. Donc, c'est The Atlantic qui sort cette nouvelle absolument dévastante. Et quand même, pourtant, il y a de quoi s'inquiéter qu'ils aient pu prendre, franchement, au second degré, quand même, des trucs comme ça. Parce que franchement, si on vous passe des images arrêtées de Starship Troopers, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je doute que des trucs comme ça, join up now, rejoignez l'armée maintenant, ou des sourires ultra bright de mecs prêts à défarouiller du coléoptère terroriste, ou encore voilà quoi, l'adolescente par excellence. Si franchement ça, ils prennent ça au premier degré, moi ça me fait un peu.
C'est peut-être pas franchement flagrant non plus, hein.
Tu penses, honnêtement?
Bah, je sais pas, hein.
Tu penses qu'ils sont vraiment plantés pour le coup? Ah bon, bah, ok. Ça me fait plaisir en tout cas. Tous les liens, évidemment, on va vous les envoyer sur Twitter au fur et à mesure. Et une info qui est tombée ce matin, figurez-vous que Chuck Norris, l'acteur qui l'interprétait, a décidé de raccrocher officiellement. Il s'appelait Michael Bloomingfield et c'est lui qui jouait depuis 18 ans le rôle de Chuck Norris. Pourquoi tu rigoles?
Non, pour rien, pardon. C'est pas une blague.
Non, il arrête à 70 ans, il a dit qu'il arrêtait, donc selon et bien évidemment les critiques, comme par exemple il y a Allociné qui rapporte une interview comme quoi son contrat lui imposait 3 films par an en jouant Chuck Norris, alors que franchement il aurait préféré faire du théâtre, Shakespeare. Mais quoi encore? Qu'est-ce que vous me faites signe là? Comment ça? En haut.
Ah oui, c'est cette source qui est le Gorafi.
Ah merde, je me suis fait avoir. Ok. Tu la joues comme ça. Tu crois que jamais tu te fais avoir sur des blagues comme
jamais.
Ça du Gourafé? Jamais, jamais. Ok, alors, jouons. Jouons, mes chers amis. On va sur le site Figaro ou Gourafi.fr. Le but du jeu est très simple. On va vous présenter des news, des titres de news. Et vous allez me dire si oui ou non. C'est le Figaro ou le Gorafi, et on va jouer avec la salle, bien évidemment. Donc, on va commencer. Ceux qui me disent le Figaro, lève la main gauche, et ceux qui me disent le Gorafi, lève la main droite, évidemment. Donc, on va commencer. Ulrich refuse de rendre ses médailles. Qui dit le Figaro? 1, 2, 3, 4. Qui dit le Gorafi? personne. Bon, d'accord, ok.
C'est qui Ulrich?
Et c'est
Jan Ulrich. Ah, le cycliste.
Ouais.
Tu connaissais pas, toi?
Non. Okay. Donc effectivement, c'est une vraie news.
Qui connaissait Jan Ulrich ici? C'est bien. T'as vu la main gauche.
Barbie accusée de grave violation du droit du travail en Chine. Donc je pense qu'on parle de Klaus Barbie. Vous levez pourquoi?
Non, c'est Barbie, la poupée.
Bon, Figaro. 1, 2. Gorafi. 1, 2.
Moi, je dirais le Figaro aussi.
Tu penses le Figaro? Ouais. Ok, voyons. C'était le Figaro. Ok, on en fait une troisième, tout ça pour le plaisir. Un chien diplômé d'université en Angleterre.
Figaro.
Bon, Figaro. 1, 2, 3. Gorafi, combien? 1, 2, 3. On va voir. Ah, ça va être dur. Qui me fait le tossing? Qui me dit si c'est vrai ou si c'est faux? Parmi les invités.
Alors, attention. Vas-y.
Le Gorafi. Le Gorafi. Ok, on va essayer. Perdu, c'était dans le Figaro. Merci d'avoir joué. Et bien évidemment, on remercie beaucoup. On a les invités qui sont arrivés. Je pense qu'on va commencer peut-être avec eux dès maintenant. Mm-hmm. Je ne sais pas par qui on commence. Donc, ils vont peut-être se présenter en bout de table parce que une table horizontale, c'est quand même assez difficile.
Oui, parce que quand il y a quelqu'un de grand au milieu, on n'arrive pas à voir en fait. Bon, enfin, je te parle pour moi, hein, mais tu vois les invités, toi, ou pas?
Non, tu me gênes. Mais c'est pas radiophonique comme gag. On l'a scripté, mais c'est pas radiophonique. C'est ça le problème. Je m'en suis rendu compte maintenant.
Attends, je crois à la même peut-être.
Donc, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Donc, dans l'ordre, s'il vous plaît.
Alors, c'est Didier, je suis du fanzine Médusa Fanzine, qui est un fanzine qui existe depuis 25 ans et qui est spécialisé dans le cinéma bis, en fait.
D'accord.
Donc, je viens dès que je peux à ce genre de festival que j'adore.
Ah bon? Vraiment, vous aimez ça?
Ah, plus que ça, oui.
Ok, on parlera de vos traumatismes infantiles un peu après.
Ah, peut-être.
Bonjour. Moi, je suis Eric Peretti, je suis rédacteur, entre autres, pour le webzine surfroide.fr et pour le fanzine papier Darkness Fanzine en France. Et je suis là, j'ai été invité par les programmateurs de Extreme Cinéma pour présenter certaines séances également. Donc, ceux qui sont déjà venus m'ont déjà subi quelques fois en salle.
D'accord. Et alors là, nous avons un fumeur, et il faut peut-être lui expliquer qu'en France, effectivement, on ne fume pas, mais je crois qu'à New York non plus. In New York, Nazar, you don't have right to smoke in building, I think.
Il n'est pas allumé.
Il n'est pas allumé, d'accord. C'est sûrement un cigare électronique, je pense.
C'est pour les photos.
Et bien évidemment, je vais écorcher son nom.
Jeff Lieberman.
Thank you for being there. We're very pleased.
Oh, you're welcome. Thank you.
Attends, c'est toi qui fais la traduction en anglais?
On va mourir,
ouais.
Je sais pas. Vic, hein, peut-être tu veux essayer de faire les trades?
Qui veut faire les trades ici? Ouais. Eric?
Bon, Eric. Merci.
Eric, parfait. Bon, et on va commencer l'interview en anglais pour commencer par la difficulté, peut-être.
Ouais, allez. Allons-y comme on veut. Donc, Jeff Lieberman.
Jeff, I had just a question for you. Either Cuban cigar or
Cubano only.
Okay, thank you.
Je veux That's même pas savoir comment ils les importent.
The reason I came here is that we can't get Cuban cigars in the States. It's crazy, but we can. So the first thing I do when I get out of the plane is get a Romeo et Juliet Cubano number 2.
Ok, donc effectivement, maintenant je sais comment il les obtient. C'est tout simplement, il vient en France et il vient avec plaisir parce que c'est le seul moyen qu'il a de les avoir, ce qui peut sembler être fou. Et si vous voulez lui faire un petit cadeau, vous pouvez foncer à la cigarerie la plus proche, il veut des Juliette numéro 2.
C'est toi qui fais la trad alors?
Non.
Et pas de soucis. Bon.
Je te jure que si, parce qu'après les noms des films et traductions, tu sais, ça va être très difficile.
Allez, la première question, c'est pour toi.
D'accord. Ça va être très difficile. Hier, donc, j'ai eu le plaisir d'assister à la projection du Rayon Bleu, qui est un film horrifique qui est contre la drogue. Et pourtant, j'ai cru comprendre que lui-même avait été un hippie. Et c'était plutôt un consommateur de drogue. Donc, je veux juste savoir, est-ce qu'il a consommé la même drogue que celle qui est l'objet du film pendant la production du Rayon Bleu ?
anti-drug movies, and he wants to know if you use drugs.
Alors, il n'y a pas un problème dans votre poste, hein, c'est tout simplement qu'il est en train de lui glisser à l'oreille la question en anglais. C'est
yes,
pour ça que vous ne comprenez pas.
The answer is it's not really an anti-drug film, but I took the point of view of what the government was telling you was bad about drugs, and I thought it was so funny that it would be funny to make a movie based on them being right about what the evils of LSD was. And yes, I did take LSD many times, and it's probably how I got the idea for the movie.
Donc oui, bien sûr, hein, il a pris du LSD, il a pris de la drogue plusieurs fois. Le but du film, c'était pas spécialement de faire un film foncièrement anti-drogue, mais il voulait montrer un petit peu les conséquences que pouvait provoquer la prise de drogue, et puis s'il y a un côté satirique dans son film.
Alors c'est vrai que c'est un peu sa marque de fabrique. Il met beaucoup d'humour dans ses films d'horreur qu'il produit.
C'est
Thomas,
encore,
oui.
C'est
oui.
Encore à toi par rapport à. Bon, ok. On va attaquer avec le...
Alors, attends, je vais enchaîner sur une question si tu n'es pas prêt. Justement sur l'humour dans ses propres films. Est-ce que l'humour qu'il fait, qu'il instille dans ses films, est-ce que c'est pour détendre, en fait, l'horreur, le spectateur dans une vague d'horreur, ou est-ce que c'est parce que lui-même, il aime bien rigoler ?
Yeah, I basically it comes natural to me to put humor in everything. I think that if you can't see the absurdity of life, you should kill yourself. So it comes natural to me to tell any story. The humor just is the way I see the world. I can't explain it any better than that.
C'est quelque chose de tout à fait naturel pour lui de mettre de l'humour dans ce qu'il fait. Hein. C'est de cette façon-là qu'il voit le monde. Et puis si vous n'arrivez pas à voir le monde de façon humoristique, bah, autant se suicider tout de suite.
Alors justement, pour ceux qui veulent découvrir l'univers de Jeff Lieberman, il y a le film La nuit des vers géants ce soir. Donc Squirm en VO, je ne sais pas si je prononce bien.
Squirm.
Comment tu dis ?
Squirm.
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 Ok, d'accord. Donc à travers ce film, est-ce qu'il peut nous présenter un petit peu son film qui est son premier long métrage, et est-ce que surtout il voulait dégoûter les spectateurs à vie des spaghettis?
C'est vrai que l'affiche française quand même elle est...
Oh, yeah. Are they seeing that on the computer? Yeah. Squirm is a true story about.
C'est une histoire vraie.
It's a true story that an event that happened in July of 1976 in Georgia, where there was a freak giant thunderstorm, and lightning came down and struck a power line, and all the electricity, hundreds of thousands of volts of electricity, went into the ground, and the ground was wet, and a freak of nature that all the worms got electrified and came out of the ground and terrorized this town. It was a horrible, horrible event, and I just felt as a public service that I would do an expose on that event, because the government was trying to keep it suppressed because they didn't want anybody going to that town, you know, the Chamber of Commerce especially, and they didn't want people going there and thinking that, you know, they're going to turn on the faucet or the shower and worms would come out of the shower. So I think I did a good job of exposing it to the public.
Donc c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie. En juillet 76, il y a eu une grosse tempête dans un état américain et un pylône électrique s'est effondré et les câbles ont... Toute l'électricité est passée dans la terre, ce qui fait que tous les vers de terre sont remontés à la surface et ont commencé à se propager un petit peu dans la ville. Et lui, il a fait ce film comme un service, pour rendre service à la population, parce que le gouvernement ne voulait surtout pas en parler. Donc pour exposer un petit peu cette réalité, pour montrer aux gens que les vers risquaient de sortir de la douche, de remonter par les siphons, par les toilettes...
Ça change des bois constrictors qui remontent par les toilettes, effectivement. Ça valait la peine d'être dit, effectivement.
Est-ce que, quelque part, il n'a pas choisi un petit peu la facilité, puisque les rats ou les T-Rex, c'est peut-être un peu plus dur à diriger ?
Pourquoi tu m'as piqué ma question? On avait dit qu'on les improvisait.
No, you're right. That worms are very difficult to direct. They're very temperamental, and there are such thing as method worms. You know, the method acting. You know, they just wouldn't. So what we'd have to do is to get them animated. We would had a grid of wire, and it was hooked up to a big transformer. And when I said action, a guy would turn up the electricity and electrocute the worms, and they would jump up the way I wanted them to jump up. The second take, they didn't jump up so high. And the third take, the smoke would come up like it was like hamburger meat. It's true. And then we had guys with snow shovels just shoveling them off, and then they spread out another 1,000 worms and did it again.
Donc il dit qu'en réalité les vers c'est très difficile à diriger parce qu'ils font pas exactement ce qu'on leur demande. Donc lui il avait une technique bien particulière, il les mettait tous sur une plaque reliée à des câbles électriques. Il les électrocutait, ce qui fait que les vers sautaient d'une certaine façon. La première fois, la deuxième fois ils sautaient un petit peu moins haut et la troisième fois ils sautaient plus du tout. Il y avait une espèce d'odeur de barbecue qui se dégageait. Donc les assistants venaient avec des grosses pelles pour nettoyer la place et ils remettaient d'autres vers sur la plaque et ainsi de suite.
Justement, Didier et Eric, vous êtes à côté, j'imagine que vous avez vu le film. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots pour convaincre les spectateurs de venir voir ce petit ovni ?
Oui, alors ben, je dirais La Nuit des Vers Géants, c'est une série B. Donc c'est les produits américains qui sont entraînants, qui sont très bien faits. C'est une bonne surprise, ne vous attendez pas à voir avec des effets spéciaux fantastiques, tout est basé dans le scénario, dans le jeu des acteurs, dans le premier degré. Dans le premier degré, ce sont des films qui ne se moquent pas d'eux-mêmes, comme ont tendance à le faire maintenant les films de série B, où on fait des clins d'œil pour montrer qu'on se moque un petit peu du genre. Là, c'est un scénario direct, linéaire, évidemment, il y a de l'humour. Il y a un second degré, mais qui est autre. Il y a aussi toute une connotation politique. C'est un bon film. Comme disait mon camarade Benjamin Coquenet, qui présente les films avec moi, les séries B, ce sont des séries bien. Donc La Nuit des Vers Géants est un film bien. Venez le voir. Si Didier, peut-être...
Et dans le sous-genre des films d'agression animale, comme vous citiez tout à l'heure, il y a eu les rats, il y a eu les lapins, enfin plein de sortes d'animaux, c'est vrai que les vers géants n'ont pas tellement eu l'honneur de film, et c'est vraiment un bon film, quoi. Enfin, les vers sont pas vraiment géants, en fait, c'est le titre français, mais je trouve c'est...
Ouais, c'est du lombric de capacité moyenne sur cette image.
Mais c'est bien pour les lombrics, ils ont le droit aussi aux films d'agression animale, mais trêve de blague, c'est vraiment un très bon film, quoi, dans ce genre.
Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut répondre à la question, peut-être Jeff, peut-être. Il y avait un futur créateur de make-up ensuite qui est devenu connu ensuite, qui se faisait la main aussi sur ce film, qui est Rick Baker. Est-ce qu'il veut nous parler un petit peu de sa collaboration avec cet artiste ?
Faut peut-être expliquer.
Oui, c'est celui qui a fait aussi les maquillages de Star Wars, hein, les effets spéciaux.
Yeah, Rick Baker went on. And when he did Squirm, he was just an assistant to a guy named Dick Smith, who did The Exorcist and King Kong. But Rick was my age, and this was very experimental. This shot of a worm going up the side of the face was very crucial to the success of the movie. But he said, we only get to do it once because the budget. And he said he didn't know whether it would work or not. Want to say that?
Yeah. Donc au moment du tournage, Rick Baker était encore un jeune assistant qui travaillait pour Dick Smith, qui avait fait beaucoup de maquillage, notamment pour l'Exorciste. Et Rick Baker s'est très bien débrouillé sur le tournage de La Nuit des Vers Géants. Pour le maquillage principal, qui est la photo qui est dans la plupart des livrets d'exploitation, il était lui-même pas certain que ça fonctionnerait et il n'avait pas assez de budget pour le faire une deuxième fois.
So he said we must cast that actor first and then get a mold of his face. And we did. And he brought the mold on the airplane back to California. He had to have a separate seat. Do you remember Senor Wences? You know Senor Wences? No? Anyway, he'd say, back in the box. And he'd have a face. So he flew with that face back to California. And the next time I saw Rick... was when he had these prosthetics that they put on the face, separate things. It's called prosthetics. It's not a mask.
Donc Rick Baker a demandé que l'on caste, que l'on fasse d'abord le casting de l'acteur de façon à ce qu'il puisse faire un moule de son visage. Il a voyagé avec le moule du visage pour retrouver Jeff et la fois suivante où Jeff a rencontré Rick, il avait les prothèses sur le visage qu'il avait tiré du moule de l'acteur.
So when we came the day to do it, we had one shot. We did it with three cameras. Now I don't know. I'm going to spoil this for people who are going to see the movie tonight.
Bah, on va poser la question. Est-ce que vous comptez aller ce soir au cinéma?
Est-ce que ça vous donne envie?
Il y en a qui y vont, mais
tonight,
on va.
Then close your ears. Don't listen.
Donc spoiler.
Don't listen. But we took like fishing line, you know, and it's called monofilament line, and put it on a fake worm, and these guys were pulling it behind. Pulling him up the channel in the face, and there was a few of them. So when I shot it, it looked great, but you see all these people around the character. So how could it? We have 35 people in the crew. They're seeing how it's done, right? And then somebody asked. There was a guy named Mongo. He was about a 300-pound lighting guy. We called him Mongo. And somebody said, where's Mongo? And he said, well, Mongo is off in the weeds throwing up from what he saw. And I said, we have a hit movie.
Donc pour le tournage de cette séquence, ceux qui ne veulent pas en savoir forcément plus ou qui ne veulent pas avoir de découverte avant de venir ce soir, bouchez-vous les oreilles. Donc quand ils ont tourné cette séquence, ils ont utilisé des hameçons, des fils de pêche pour tracter les vers en dehors des canaux qui étaient préconçu dans la prothèse faciale de l'acteur. Et lorsqu'ils ont tourné cette séquence, c'était difficile pour eux de vraiment savoir si ça marcherait, parce qu'il y avait tous les techniciens autour, ils voyaient les trucages, les effets spéciaux, donc ils se doutaient un petit peu, ils n'étaient pas sûrs. Et il y avait quelqu'un sur le tournage, un éclairagiste, qui surnommait Mongo, parce que c'était vraiment quelqu'un de très imposant physiquement. Ils se sont tous demandé où il était, et on leur a répondu, ben il est un peu plus loin en train de vomir. Et à ce moment-là, Jeff Lieberman s'est rendu compte que le film allait marcher.
True story.
Ce qui est intéressant dans le rayon bleu, c'est on parle de drogue et tout. Et,
toi, tu tiens à ton sujet
ça,
sur la drogue.
Bah, c'est le film que j'ai vu hier. Il y a d'autres sujets à côté, comme Meurtre sur VHS. Mais ce que l'on sait peut-être pas, c'est que ce monsieur a écrit le scénario de Histoire sans fin numéro 3. En fait, j'aurais dû me méfier qu'une séquelle d'un aussi beau roman au cinéma allait être un film d'horreur. Vous l'avez vraiment fait exprès. Oh, franchement, il y en a qui l'ont aimé, là.
No, I would say that the Neverending Story Part 3 is a horror movie. They asked me, it was a work for hire. I had just written a script for Dustin Hoffman, not a horror. See, most of the time I worked, it was not in the horror genre. But people thought I was dead because that's all they knew me from. And so when I was asked to do Neverending Story 3, they said, we want to make it like Home Alone. And it didn't make any sense to me, but they paid me a fortune. And I said, okay.
Donc il tient à préciser qu'effectivement l'histoire sans fin numéro 3 c'est bien un film d'horreur. Il a écrit le scénario, c'était une œuvre de commande. Il avait d'abord travaillé sur un script pour Dustin Hoffman qui n'était pas un film d'horreur, et on lui a demandé d'écrire la suite donc de l'histoire sans fin. C'était très grassement payé, donc forcément il a accepté. Et les producteurs lui ont demandé de faire quelque chose comme Maman j'ai raté l'avion. Donc voilà, il s'est exécuté pour en faire un film d'horreur.
D'accord.
Avant de réaliser son premier film d'horreur, il avait un rapport assez spécial avec le cinéma européen et surtout avec certains réalisateurs. Est-ce qu'il peut dire justement quelle a été sa première carrière? Si dans le public il y a des questions, n'hésitez pas.
Yeah, well, first I went to film school and my whole exposure to film was the French New Wave, believe it or not. And, you know, Godard and Truffaut were the two leading directors at that time. And so my nobody used the word cinema in America. It was movies. And the first time I heard the word cinema, and I said, that's what I want to do. So I got immersed in that. And fortunately, I worked at Janus Films. We had all the Truffaut, Godard, and then the Italian Vittorio De Sica and Fellini, early Fellini, and then all the Bergman movies. And so after a while, I made a series called The Art of Film, which I got Rod Serling from The Twilight Zone. He narrated it. And as a matter of fact, you in Radioland, you can go to YouTube and put in Rod Serling and Jeff Lieberman, and it'll come up a whole session that I did for The Art of Film. I found the tape, a found footage tape of the entire session with him swearing and everything.
Donc d'abord, quand il était à l'école de cinéma, il a découvert, croyez-le ou non, la nouvelle vague française, donc les films de Godard, de Truffaut, qui ont une grande influence sur lui. Ensuite, yeah.
Voilà, on l'a.
I was 22 years old.
Voilà.
With hair.
Donc, oui, je continue juste. Oui, après, il a travaillé pour Janus Film. Alors, Janus Film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de distribution, d'importation et de distribution aux États-Unis spécialisée dans le cinéma européen. Donc, c'est Janus Film qui a distribué aux États-Unis les films de Bergman, de Fellini, de Vittorio De Sica. Donc, il a vu tous ces films-là qui ont aussi une influence. Et ensuite, aux États-Unis, lorsqu'on parle de cinéma de deux façons. Quand on dit movies, c'est plus le cinéma traditionnel hollywoodien. Et lorsqu'on parle de cinéma, c'est le cinéma européen, le cinéma plus d'auteur. Et c'est du cinéma que Jeff voulait faire. Et plus tard, il a mis en place avec Rod Serling, le créateur de la quatrième dimension, une série d'entretiens à propos de l'art du cinéma. Et là, sur YouTube, vous pouvez, en tapant Rod Serling et Jeff Lieberman, vous pouvez trouver cette série-là. On va vous en passer un extrait, apparemment. Jeff est en train de diriger la radio en disant ce qu'il faut faire. Voilà.
On l'entend pas sur les casques. Enfin, on l'entend sur les casques, mais pas sur l'audience.
Sergei Parajanov's Shadows of Forgotten Ancestors from the Soviet Union.
Ça parle de...
Parajanov retells the Romeo and Juliet legend through the story of young Ivan and the violence of life in the Carpathian Mountains 100 years ago. There was absolutely no evidence that out of the USSR and its almost static film production of the last 20 years would burst forth one of the freest, most flexible, yet disciplined cameras of our generation. The handheld camera is Parajanov's basic tool. It enables him to move quickly from one character to the next and yet maintain a sense of their spatial relationship to each other. Doing that last thing again, I didn't give you very much pause.
C'est pour ça qu'il voulait que je le passe, d'accord.
The handheld camera is Parajanov's basic tool. It enables him to move quickly from one character to the next, and yet maintain a sense of their spatial relationship to each other.
I'm sorry, but excusez-moi, mais avec une voix comme ça, une belle voix de basse, so beautiful, stands our voice. Please, could you tell us? We want to use it as an opening jingle previously in the Supplément Weekend. on va lui demander de faire le jingle en live.
Tu veux qu'ils disent quoi?
Précédemment dans le Supplément Weekend, previously in the Supplément Weekend.
Previously in the what? Supplément. Supplément Weekend. Supplément Weekend.
C'est la joie de le faire en live.
Ah. Previously in the Supplément Weekend.
Previously in the Supremo Weekend.
Oh, thank you very much! Mesdames et messieurs, Jeff Lieberman, ce soir à la cérémonie de clôture de Extreme Cinéma, 15e édition. Merci à lui.
Donc, on rappelle l'horaire à laquelle passe La Nuit des Vers Géants, professeur Thibault.
22h.
22h30. 22h33, très bien.
Ouais, moi j'avais encore une ou deux questions pour Jeff Lieberman.
Bon.
Jeff, you worked a lot for the TV.
Jeff, particular, vous avez beaucoup travaillé à la télévision.
You created the show Till Death Do Us Apart with the presenter, which was John Waters. Can you tell us about how it came to...
I always thought that, you know, marriage is all... The reason I don't like weddings is that every time I go to a wedding, including my own, it's like I always say, how much do you give it? A month, a year, 2 years? You know, you just look at them and try to guess, how long is this going to last? So I'm cynical to begin with. But, and I'm married 40 years, so, you know. I didn't predict it would go more than 1 year.
You know what you're talking about.
But, so when I see that couples that either the groom kills the bride or the bride kills the groom somewhere along the line. There's so many murders that happen, spousal murders. So I'm thinking, well, this guy, this woman put a hatchet in her husband's forehead and rolled him up in a tarpaulin, right? That's really happened. And she's a school teacher. But at some point when they got married years ago, they were in love and there was a bride's groom and a priest and all of that. So what if you go back, real stories, you go back to the beginning and show the wedding and then track the marriage as it disintegrates to the point that one's going to kill the other, right? But what if there's somebody in the audience at the wedding who knows what's going to happen? So I said that would be the groom reaper, not the grim reaper, the groom reaper.
Yeah, understood.
Yeah, so as soon as I said, in my mind, Groom Reaper, I thought of John Waters. And then I sold the idea like that. I contacted John. I didn't know him, but he knew my work. I certainly knew him. He loved the script, and he was the Groom Reaper.
So you did sell it to the TV channel?
Yeah, yeah.
By your own?
No. It was on Court TV for 13 episodes in the United States, and they... syndicated, you can get it on DVD, I guess.
Yeah, you produce the whole show.
Est-ce qu'on peut avoir la traduction entre temps?
En France. Parce que là, ça fait privé. Vous pouvez aller parler à côté si vous voulez. Hein.
Alors, this is the English version. English channel.
Yeah. On va faire
Radio Free Europe.
Sorry.
On va faire bref. Donc, la série télé dont il a eu l'idée, c'était Jeff, à chaque fois qu'il va à un mariage, y compris le sien, il a toujours été quelque part sceptique. La question qui s'est toujours posée, c'est ok, là, c'est bien beau, mais combien de temps ça va durer? 2 mois, 2 semaines, 2 ans, 20 ans? Lui, il est marié depuis 40 ans, donc il sait quand même de quoi il parle. Et l'idée, le concept de sa série télé, c'est de montrer un mariage qui, quelque part, se termine mal des années après. Une dame qui est prof d'école tout à fait normale, qui un jour va planter une hache dans le front de son mari, le découper en morceaux. Comment elle en est arrivée là? Donc il va filmer d'abord le mariage et montrer progressivement la désintégration de ce mariage jusqu'à arriver à l'acte final. Et le gimmick de la série télé, c'est d'avoir un personnage qui s'appelle le Groom Reaper. Alors là, c'est un jeu de mots avec Grim Reaper, qui en anglais, c'est la faucheuse. Donc le Groom Reaper, c'est le personnage lors du mariage qui sait déjà ce qu'il va se passer à l'avance. Et lorsqu'il a pensé à ce personnage-là, la première personne dans sa tête, c'était John Waters, le réalisateur John Waters, à qui il a offert le rôle, qui est le personnage récurrent donc de la série, qui a eu 13 épisodes. Voilà.
Back in the 90s...
Je sais pas, il y a des symboles de main,
Jeff.
Tout ça.
Jeff. Ah, il a des problèmes de fil, là.
D'accord, ok.
Voilà.
Attention, ça non, c'est bien. Trop court, c'est trop court.
Passe-le en dessous. Voilà. So Jeff, you did some documentary for TV too. One in 1985 called Sonny Liston. 95, yes. Sonny Liston, The Mysterious Life and Death of a Champion.
Right.
Did you read the book of Nick Tosh?
No. As a matter of fact, I didn't even know. Nick wrote the book after I did it, and I called him up because he used a lot of
material.
Well, he used a lot of the same material that I use in the documentary, but he it's all real. So he did the same research I did. So he, it's not like he stole anything, but the things that he did, not steal, but use from my documentary, he put a citation in the book.
Yes.
Yeah, I did Sonny Liston because I met Sonny Liston when I was 10 years old.
In New York.
He was training to fight Floyd Patterson for the heavyweight championship. And I was a little kid. And he and his wife didn't have any children. So he just took to me. He thought I had freckles, you know, and they thought it was so cute. And I sat on his lap during, like after he would do a round and he'd go sit down and he'd pick me up and I'd sit on his lap. So I was always a big Sonny Liston fan.
So you saw all his combats?
Yeah, and he was the evil guy, and they painted him as a monster and everything. And I basically did it to get the record straight. That's why I did the documentary.
Yeah, because he didn't have a very good acquaintance.
Right, the mob and everything, yeah. But I thought, you know, from a racial perspective, he was the last of the controlled black fighters. Muhammad Ali was the beginning of what we call today's sports, but Sonny Liston was a very important character, and that's the reason why it got so much attention and it won 3 Emmy Awards.
On peut avoir la, on va,
oui, on va peut-être s'arrêter là aussi, oui, parce qu'on a d'autres invités après.
Peut-être juste présenter toi Sonny Liston, parce que je pense que tu connais mieux que moi le personnage Sonny Liston pour les auditeurs qui sont pas.
Sonny Liston, donc, c'est un très grand boxeur qui a été champion du monde dans la catégorie des lourds, la même catégorie de Mohamed Ali. Avant Mohamed Ali, il a rencontré Mohamed Ali plusieurs fois. Il a rencontré tous les grands et il a battu tous les grands boxeurs dans la catégorie des lourds dans les années 50, puis dans les années 60, je crois, même au début des années 70.
D'accord. Donc la question, c'est par rapport au documentaire que Jeff a réalisé dans les années 80 sur Sonny Liston, justement. Il y a eu un livre aussi qui a été écrit par Nick Tosh sur Sonny Liston. Et donc, Jeff a réalisé son documentaire avant d'avoir lu le livre, avant le livre. Donc, ils ne se sont pas volés l'un et l'autre les informations. Comme c'est basé sur des faits réels, ils ont mené les deux leurs propres enquêtes qui, finalement, révélaient les mêmes faits. Et dans le livre de Nick Tosh, il y a même une citation en disant qu'il avait vu le film de Jeff, qu'il y avait certaines informations qu'on pouvait piocher aussi dedans. Il faut savoir que Jeff a rencontré Sonny Liston lorsque Jeff était adolescent. Il avait une dizaine d'années. Il a vu Johnny Liston qui s'entraînait. Et Johnny Liston s'est un peu pris d'affection, qui n'avait pas d'enfant. C'est un peu pris d'affection pour Jeff, qui était un gamin assez craquant avec des taches de rousseur. Donc voilà, il s'est un petit peu touché Sonny Liston.
Voilà, et donc il l'a pris sur ses genoux.
Il lui a enseigné 2-3 petites choses.
Voilà. Quoi. Donc il y a quelque chose de très intime hein, entre Jeff et Sonny Liston. I think we're going to stop here because we have other people who are coming.
Oh yeah.
Thank you very much for your coming and
thank
your
you,
kindness.
Jeff.
Merci beaucoup.
Thanks for having me.
Alors Xavier, ouais, pardon, tu arrêtes pas de tweeter là.
Enfin, tu sais, comme d'hab, quoi, ça m'arrive un petit peu de temps à autre, et tout le reste, je tweete un petit peu.
Ah oui, tu voulais passer la barre une certaine barre fatidique des tweets, mais tu n'y arriveras pas.
Ouais, 99 827, ce qui fait, à ce qui paraît, au cours d'introduction du tweet, c'est 7 centimes le tweet. J'ai pratiquement cumulé $7,000. Enfin non, j'ai donné une société américaine. Mais tu sais, sur Twitter, tu tombes des infos extrêmement intéressantes des fois. Par exemple, il y a celle-ci qui est extrêmement intéressante, c'est que Batman a demandé à Robin d'arrêter de citer One Direction systématiquement, sinon la prochaine direction qu'il prendra sera la porte. Moi ça me fait rire, hein. Je sais pas, tu vois, c'est des trucs sympas. Ou encore, ça c'est moi, j'ai vu ça à Paris, je suis tombé sur un Spirou édition limitée, tout neuf, sur les voies de la ligne 4, je me suis dit... Ça, si c'est pas le meilleur moyen pour vaincre la surnatalité, c'est parfait, quoi. Non, en fait, ce qu'on trouve sur Twitter, c'est des trucs vraiment graves. C'est par exemple quelqu'un qui s'amuse à reprendre le générique du Prince de Bel-Air, mais en prenant exclusivement... The Off. C'est-à-dire, il a découpé, en fait,
The Rip Off.
Voilà, Michael Dutikoff et qui chante.
Michael Dutikoff, non, tu confonds encore avec David Hasselhoff. Now, this is a story all about how my life got flipped, turned upside down.
Oh. I'd like to take a minute, just sit right there. I tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
What happened in here?
We was robbed!
You're absolutely right. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, Maxine, relax, and all shooting some b-ball outside of your school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight. My mom got scared and said, "You're moving with your uncle." And I laughed. I whistled for a cat. And when he came near the license plate, said, "Fresh and had a dice in here." If anything could say that this cat was rare, I thought, nah, forget it. You homes to Bel-Air. I pulled up to a house about 7 or 8, and I yelled to the cabbie, "You homes, smell you later." Looked
at. C'est juste la performance. Hein. Après, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est juste inaudible. Comme d'hab.
Juste un truc, c'est du sport. Pour présenter cette séquence, Xavier a encore confondu Michael Dudikoff et David Hasselhoff.
Comment ça, ça m'arrive tout le temps?
Ça va pas le faire.
David Hasselhoff, c'est celui qui joue dans K2000. Michael Dudikoff, c'est celui qui fait des films de ninja.
Ouais, bon, mais David, c'est de la merde quand même, tous David, les deux,
David,
non?
David Hasselhoff, il sait pas faire le grand écart.
Ah.
C'est comme ça, hein, moyen mnémotechnique, voilà.
D'accord, ok.
Alors, faut que j'en trouve.
Heureusement que celle-ci, elle n'était pas scriptée de blague, hein, sinon elle serait tombée à plat.
Oui, oui. Alors, on va enchaîner avant d'enchaîner avec nos invités suivants. Ou alors on le fait après, la petite séquence. On va,
Après. Allez, on envoie sur nos invités.
On est toujours avec Didier et Eric Peretti, et nous avons un nouvel invité en bout de table. On va lui demander de se présenter.
Oui, bonjour. Bah, vu que Jeff est parti pour de nouvelles aventures, je le remplace un instant. Oui, je suis Gilles Esposito du magazine Mad Movies.
Bravo!
Merci.
La presse existe, elle est encore vivante! Même pour de la presse de mort-vivant.
Ah ben justement, on va...
Et nos oreilles, pas du tout.
Oui, arrête de ne crier dans le micro, parce qu'on sait qu'on a de l'assistance, mais...
Oui, mais on fait de la radio associative, donc il faut que je gueule fort, tu vois, pour que ça parte plus loin.
Donc tu aimes bien péter les tympans de nos invités.
Tu dis que je casse les oreilles.
Gilles, c'est pour la culture personnelle que tu viens pour saluer des vieux amis, ou est-ce que c'est pour présenter également des films? Est-ce que tu... Voilà.
Ah non, moi je présente pas là, je suis tranquille, les doigts en éventail, à voir des films dans la salle. Là, c'est donc mes camarades Eric et Benjamin qui assurent les présentations, et puis aussi les deux têtes pensantes du festival, Prof Thibault et
Franck
Lubet, qui aussi font les présentations avec les invités, tout ça. Donc non, là je suis en reportage, j'en magazine, et ensuite je vais écrire un compte rendu dans un prochain numéro de Mad Movies du festival. Donc voilà. Mais
donc là ça tombe bien parce qu'on a trois invités qui sont là pour faire pour certains des présentations, mais aussi des comptes rendus pour les différents supports de reportage, magazine, webzine, etc. Est-ce que vous avez déjà commencé à en parler entre vous on va dire un petit bilan du festival? Quels sont les films qui vous ont plu? Quels étaient les films que vous attendiez de voir avant de venir?
Pour commencer à répondre à cette question et finir de répondre à la précédente, en fait, je suis aussi venu à Toulouse parce qu'on est toujours entre amis. Donc il y a Eric qui est ici présent, dont je viens voir les présentations. Didier que j'ai rencontré ici. Jeff Lieberman, je le connaissais, donc pour une fois qu'il était en Europe, on l'a revu. Je connais très bien Christophe Beer parce que je bosse avec lui par ailleurs sur d'autres projets, qui est venu présenter son documentaire sur Eurociné, voilà, enfin on est tous des amis d'amis. Gérard Kikoine, parce qu'en fait avec Christophe Beer on avait fait un projet sur le porno, tout ça, donc un peu tout ça c'est un peu la nationale ou l'internationale du cinéma obscur. Voilà, c'était un de mes premiers critères pour venir. Après, il y avait des films que j'attendais carrément. Mais en fait, pour commencer à répondre à la question. Hier, on est pas mal à être sortis de la salle, cette salle-ci, la salle 2, la petite salle de la Cinémathèque, parce qu'on sortait du film Chaque soir à 9h de Jack Layton. Oui, voilà, Eric, qui a présenté le film, vient de dresser le point en triomphe.
Bon, c'était mon film fétiche de la programmation, c'était mon chouchou de la programmation, donc je suis très content que les gens l'aient apprécié.
Oui, oui, ouais. Moi c'est devenu, je pense, pas mal le film fétiche de pas mal de spectateurs. C'est un film anglais des années 60, un film assez mystérieux sur un peu les mystères de la psychologie enfantine. En fait, c'est une fratrie de 7 gamins, dont d'abord la mère est mourante, constamment alitée, puis elle meurt et en fait ils sont laissés à eux-mêmes dans une grande maison où ils reconstituent une mini-société. Après, bon, il y a des éléments extérieurs perturbateurs qui arrivent. Je vous raconte pas tout le film, mais bon, c'est un film vraiment très étrange, très mystérieux, et c'était vraiment, par exemple, une des grandes découvertes du festival.
Et pour ceux qui parlent pas, Eric et Didier.
Bah moi je vais rejoindre un peu Gilles. Si je viens, c'est quasiment à égalité, autant pour les films que pour les invités, les personnes comme Gilles, Eric ou d'autres gens que j'ai pu rencontrer ici au festival. En fait, c'est autant pour les films que pour l'ambiance générale, l'atmosphère et les rencontres.
Il y a beaucoup de lieux prestigieux comme la Cinémathèque de Toulouse maintenant qui font ce genre de festival entre guillemets Bisseux, Z, Déviant et tout ça, mais est-ce que certains le font juste d'une manière forcée ou est-ce que c'est vraiment dans les gènes des lieux qu'ils abritent, comme c'est le cas ici puisque c'était l'origine en fait de la Cinémathèque de Toulouse, la récupération de films tout venant
souvent à l'origine des festivals. Il y a quand même des passionnés du genre, je pense. Après, les lieux s'y prêtent peut-être pas toujours forcément, mais en tout cas l'initiative vient de passionner généralement. Enfin, pour le peu ou pour ceux que j'ai pu voir, c'est toujours les gens qui organisent maîtrisent le sujet. C'est pas opportuniste en fait.
Et pour les habitués qui ont ceux qui n'ont pas l'habitude de courir ce genre de festival-là, qu'est-ce qui fait le sel et le parfum particulier de Extreme Cinéma par rapport à d'autres festivals qu'on ne nommera pas? Voilà, tu disais qu'il y avait une atmosphère particulière ici. Et c'est quoi ce truc spécial ici?
Bah, c'est l'entre-soi, hein, c'est ce que les gens recherchent. L'entre-soi, c'est on parle entre connaisseurs, on rencontre des gens qui maîtrisent des sujets passionnants. On voit des films qu'on peut pas voir ailleurs. Je veux dire, voir un porno dans une salle de cinéma maintenant en France, c'est quand même assez difficile, pour citer un exemple. Voir un Jess Franco au cinéma, c'est pas non plus chose aisée de nos jours. Revoir des classiques de Jeff Lieberman comme Le Rayon Bleu, La Nuit des Vers Géants ou Survivance au cinéma, c'est quand même de grandes motivations, je trouve.
Moi j'ajouterais qu'il y a aussi dans ce festival là mais d'autres festivals du genre, hein, il y a un partage, c'est un festival généreux, les invités sont accessibles, on peut aller discuter avec Jeff Lieberman, avec Gérard Kikoine, dans le hall les spectateurs peuvent aller discuter avec les intervenants. Il y a d'autres festivals qui sont peut-être un peu plus réglementés où c'est beaucoup plus difficile d'approcher les invités, d'approcher les intervenants si on n'a pas d'accréditation, si on n'a pas de badge. Là c'est vraiment un festival de partage, les organisateurs du festival ne gardent pas en gros les informations pour eux, tout le monde peut aller discuter avec tout le monde. Et pareil, les gens qui sont là, les invités, autant les intervenants, les journalistes, ce sont pas des gens prétentieux qui se mettent sur un piédestal. On est là pour recevoir l'avis de tout le monde, pour discuter avec tout le monde, faire découvrir aux gens notre passion. Moi je suis très content quand après les gens viennent me dire, bah, toi la présentation ou le film que tu nous as conseillé était très bon, mais je suis aussi content quand les gens viennent me dire, mais écoute, le film, moi j'étais pas trop d'accord avec toi, ou je l'ai trouvé moyen, et après il y a une discussion qui s'engage. Et c'est ça qui est intéressant dans ces festivals, c'est qu'on peut échanger. Et ça c'est très important, et il faut continuer à faire des festivals comme ça.
Tous les trois, vous tenez justement, on disait tout à l'heure, des magazines ou des webzines. À l'heure d'aujourd'hui, où il n'a jamais été aussi facile de voir n'importe quel film à travers le monde, est-ce que vous avez votre rôle au sein de vos rédactions qui a changé? Et justement, comment vous êtes adapté à cette nouvelle façon de consommer les films de la part du grand public? Grand public ou les publics de passionnés hardcore pour les films de genre?
Oui, Gilles Esposito, mes petits camarades m'ont fait signe pour me refiler le bébé.
On va dire que Gilles est professionnel, Gilles est un journaliste professionnel, donc c'est peut-être une question qui s'adresse plus à lui.
Oui, bah, comme tu le dis, virtuellement, tout est accessible, à part que personne n'a le temps de tout voir. Tout le monde n'est pas vraiment au courant. Enfin, je sais pas, on peut se dire qu'en fait, pour peu qu'on franchisse la légalité, on peut tout télécharger, mais en même temps, les gens, ils téléchargent en priorité Transformers 12. Enfin, je veux dire, Transformers 12, c'est infiniment plus téléchargé illégalement, je suppose, que les films de Jeff Lieberman. Donc voilà, enfin, notre rôle, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire passer l'information et de jouer les éclaireurs pour les autres gens, en fait. Le truc, c'est que, bon, Mad Movies, notamment Mad Movies par rapport... Enfin, ce que je peux dire sur l'attitude de Mad Movies par rapport à ça, c'est que nous, il y a eu une période dans l'histoire du magazine où ça parlait aussi de cinéma policier, de films d'action, enfin, de choses de plus en plus larges. Et finalement, je suppose que les lecteurs à cette époque-là ne voyaient plus très bien la différence qu'il pouvait y avoir avec un magazine de cinéma généraliste. Et la nouvelle équipe qui s'est mise en place plus ou moins il y a une dizaine d'années chez Mad Movies, nous, on est revenu progressivement beaucoup plus sur le cinéma fantastique, de science-fiction et sur l'horreur qui est vraiment l'identité du magazine. Et on est redevenu beaucoup plus un magazine de niche, mais c'est comme ça qu'on résiste parce qu'en fait, on peut proposer une expertise avec toutes les guillemets que vous voudrez sur un domaine qu'on connaît et creuser un peu, parler des quelques films fantastiques qui sortent en salle, des quelques films fantastiques qui sortent en DVD et enfin en parler assez longuement et profondément, parler des différentes initiatives qu'il peut y avoir en région à l'étranger comme le Festival Extrême Cinéma de Toulouse. Voilà, je pense que la réponse à ta question, c'est que l'avenir, c'est dans les niches et fouiller précisément un truc précis. Après, tu peux aller sur allociné.fr pour avoir les horaires de Gravity dans la salle la plus proche de chez toi.
Est-ce que justement, puisque la Cinémathèque c'est un lieu de conservation et pour diffuser certains films, n'hésite pas à lancer des restaurations de pellicules qu'on n'a pas vues depuis un bail. Est-ce que des fois ça vous arrive pas d'approcher certains festivals, voire même l'équipe de la Cinémathèque à Toulouse, pour leur dire bah, nous on aimerait bien, on sait qu'il y a encore une copie qui est disponible, on aimerait bien qu'une projection de ce film ou que le film soit restauré?
Oui, alors il faut savoir que les gens qui font les programmations, je dirais pour Extrême Cinéma, Fred et Franck sont des grands cinéphiles, et comme disait Gilles avant, on est un milieu...
Grange les dépasse.
Oui. on se connaît tous un petit peu, donc on a tous forcément un peu la même culture, les mêmes goûts, les mêmes envies. Donc très souvent, lorsqu'on voit la programmation, ce sont des choses, on est tout à fait d'accord avec eux, on se dit « Ah ben oui, c'est vrai, ils ont pensé à peu près aux mêmes choses au même moment que nous. » Ça arrive parfois je sais que dans mon cas, je leur envoie un mail en leur disant « Tiens, ce film-là, ça fait longtemps qu'il n'est pas passé. Est-ce que vous avez une copie par hasard à la Cinémathèque où on peut se donner des idées ?» Mais très souvent, on pense plus ou moins aux mêmes choses à peu près au même moment. Je pense que c'est eux qui font leur programmation et ils ont les bonnes idées au bon moment.
C'est pareil.
Oui, bah moi, ça m'arrive de leur demander des titres, mais c'est parce que je rêve de revoir des films que moi j'ai vus dans mon adolescence dans des petits cinémas de quartier, comme un film comme, enfin là je les ai tannés cette année avec un film indonésien de 82 en fait qui s'appelle Le Guerrier, que j'adorerais revoir au cinéma, mais bon, pour le trouver apparemment c'est difficile.
Et là, justement, dans la précédente question, tout à l'heure, on parlait de niche. Et pour un cinéma plutôt commercial, bon, c'est comme Mad Movies, vous avez globalement adoré Pacific Rim. Est-ce qu'il y a des gros mastodontes que vous avez dans le genre, avec donc plus de budget que les films dont on parlait tout à l'heure, qui vous ont vraiment accroché cette année-là, récemment?
Ah bah oui, Gilles Esposito à nouveau. Par exemple, là ça vient de sortir, c'est sorti mercredi, il y a une dizaine de jours là. Par exemple, après un été de blockbusters pas forcément terrible, il y a Snowpiercer, le film de Bong Joon-ho qui sort, qui est quand même un gros machin. qui a fait, je crois, 20 millions d'entrées en Corée, enfin un chiffre complètement délirant, et qui est une espèce de blockbuster alternatif, c'est-à-dire c'est pas vraiment un film américain, c'est surtout des financements coréens, c'est tiré d'une BD française, ils ont un peu fait le tour des popotes pour avoir une espèce de coproduction internationale avec, pour un truc tourné en anglais avec des acteurs de pas mal de pays différents, et le film est très, très étonnant, très inventif, hétéroclite, parce qu'en fait, c'est une espèce de huis clos dans un train après l'apocalypse où, avec une succession de wagons, tout ça. Et bon, ça, c'est par exemple un truc, je sais pas, il doit bien y avoir 200, 300 copies France pour la sortie. Et ça, c'est une chose qu'on a défendue, par exemple. Donc voilà, et puis bon, ça sera peut-être à Extreme Cinéma dans 30 ans comme un film vintage, mais en tout cas ça vaut le coup d'y aller maintenant. De toute façon, oui, je pense que c'est pas mal à la fois dans les fanzines ou les gens qui écrivent des bouquins de pas recouvrir les films anciens sous la poussière et un peu d'en parler un peu au présent. Et à l'inverse, nous qui sommes un magazine d'actualité un peu, on accorde quand même une large place à des sujets rétrospectifs, à essayer de couvrir toute l'histoire du cinéma fantastique. Voilà, enfin bon, faut marcher sur ses deux jambes, quoi. Faut connaître le passé du cinéma et puis aussi pas être coupé de ce qui se fait maintenant, même s'il faut trier le bon grain de livret dans les deux cas, quoi.
Et pour Didier ou Eric, les coups de cœur récents en gros machin,
je vous avouerai que moi je vais peu au cinéma parce que j'habite dans un petit village, donc ça me demande beaucoup de kilomètres pour aller voir un film en salle. J'ai quand même vu Pacific Rim cet été, que j'ai apprécié malgré tout. Je suis pas...
Pourquoi malgré tout?
Je vous avouerai que j'ai pas supporté du tout le duo comique des deux scientifiques qui m'a gâché quand même une bonne partie du plaisir du film. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui est effets spéciaux, il y a pas mal de choses dans l'histoire qui m'ont bien plu, mais c'est vrai que le duo comique m'a quand même gâché une grosse partie du film.
Ok. Et toi, Didier?
Moi, j'ai pas vu Pacific Rim. Donc j'attends de le voir, je le verrai plus tard, quoi. Je cours pas avec tout le monde pour voir les films. Je suis beaucoup plus réfractaire au cinéma contemporain. C'est moins ma tasse de thé, mais c'est pas pour autant que je le dénigre. Je veux dire, après c'est une question de goût. Mais le transpersonnage, par contre, je vais aller le voir. Oui.
Il fut une époque où les réalisateurs français de films d'horreur au début des années 2000 arrivaient à tourner un petit peu, où ils ont eu un énorme succès, mais pas en France, et ils ont été invités par les Américains pour tourner avec eux, avec plus ou moins de succès malheureusement. Qu'en est-il actuellement? Vous qui êtes en prise justement avec la plupart de ces signatures, est-ce que finalement l'expérience justement des slashers, de la viande made in France exportée aux États-Unis et un peu partout, finalement est retombée? Ou est-ce qu'ils ont encore une possibilité de nous produire de bons films là-bas?
Oh, c'est un peu difficile de répondre de manière générale à cette question. En fait, il y a eu quasiment autant de cas de figure que de cinéastes. Il y a eu effectivement, au cours des années 2000, toute une vague de premiers longs métrages d'horreur de jeunes cinéastes français. Le truc, c'est que je pense que les compagnies américaines et surtout les agents américains, en fait, signent des contrats avec tous les gens qui font des films. Donc, en fait, je crois que tous ont eu un agent aux États-Unis et ont reçu des propositions. Alors après, ça dépend du caractère des gens, en fait.
Vous voulez dire que les Français ont une mauvaise réputation depuis Babylon ID de Matthew Kassovitz?
Non, enfin, il y a le cas Kassovitz avec son film qui était tourné dans des très mauvaises conditions, enfin, où ils ont été obligés de commencer le tournage sans que le scénario soit achevé, si j'ai bien compris.
Non, mais
si tu veux, il y a des gens qui ont fait des films d'horreur en France et donc ils ont été contactés par les Américains. Ils ont fini par leur dire allez vous faire foutre parce que en fait devant un peu les multiples réécritures du scénario, enfin tout le contrôle qui est exercé sur les réalisateurs à Hollywood, Donc il y a des gens qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas du tout réussi à s'y faire, qui ont refusé tout net, ou des gens qui ont tourné un film aux États-Unis et qui ont eu beaucoup de problèmes là-bas. Mais à l'autre, au côté. De l'autre côté du spectre, il y a quelqu'un comme Alexandre Aja qui, après deux films et surtout un film haute tension en France, est parti aux États-Unis et semble s'être complètement fondu dans le moule. Et donc, lui, il a l'air d'être comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire, avec Piranha 3D aux États-Unis. Donc, il y a un peu tous les cas de figure. Au milieu, tu aurais un peu Eric Valette qui semble passer d'un projet à l'autre des États-Unis en France. Alors, il était parti aux États-Unis où il a notamment fait One Miss Call, un film de fantôme. Il est revenu en France où il a fait des polars, par exemple Une affaire d'État, le truc avec Dussolier et Christine Boisson, et où il a tourné des épisodes de la série Braco. Donc donc voilà, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a Pascal Laugier fait des films au Canada en fait, parce que The Secret, qui est plutôt un film franco-canadien tourné en anglais et qui a été largement distribué aux États-Unis. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Je sais pas si on peut vraiment généraliser.
Et sur les thèmes, parce que là, on a surtout eu du zombie et du requin. Ce qui est intéressant avec le requin, c'est qu'il est protéiforme. Il peut être le requin d'eau douce, il peut être le requin croisé avec une araignée, avec un chameau, aspiré par une tornade. Ouais, c'est quoi la nouvelle tendance ? Est-ce que la prochaine tendance, est-ce que ça va pas être le requin non mutant qui est dans l'océan ?
Ah, tu parles de tous les asylums, oui. Ce qu'on appelle les mockbusters, Sharknado, Sharkgator, tout ça.
Oui. Comment vous verrez la prochaine tendance du film d'horreur, tendance lourde, après le film d'écartèlement, le film de zombies?
Bah déjà, est-ce que c'est des films que tu vas voir, toi? Est-ce que c'est des films que tu regardes, toi, déjà? Les Sharknado, les trucs d'asylum,
Non, je t'avouerais que là, c'est un peu dur pour moi. Non, mais... Non mais en fait je parlais de Laugier, donc Pascal Laugier, qui avait fait un film très 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 violent qui s'appelait Martyr, où il y a eu un problème, en fait les gens ont dû faire pression pour qu'il soit seulement interdit au moins de 16 ans parce que la commission de contrôle en France voulait l'interdire au moins de 18. Donc il a fait ça et ensuite il a tourné le film dont je parlais, The Secret, avec Jessica Biel, qui est sur un fantastique beaucoup plus allusif, plus sur le mystère, etc., qui a peut-être été vaguement lancé comme un Shyamalan, enfin un truc intrigant comme ça. Et je pense qu'il y a eu toute une génération de cinéastes français donc à ronger son frein, puis ils sont arrivés, ils ont pu faire leur premier long métrage et donc ils ont fait un truc super gore, comme un truc le bouchon a explosé. Et je pense que la tendance actuelle est, enfin notamment liée au quand même au piètre résultat en France des films de pure horreur quand même. C'est là un peu la seconde phase. On est plus dans un fantastique plus mystérieux, allusif. Je pense qu'on est un peu plus là-dessus à présent.
Et le genre de film qui vous ferait triper, pour lequel vous irez immédiatement au cinéma, une petite nouveauté que là-dessus, rien que sur le pitch, vous irez. Est-ce que ce serait quoi ? Un alien dealer de drogue, un flic requin,
Ça va être le metteur en scène, à mon avis.
Quel est le genre qui ferait le sel qui... Ah ouais, non, là j'y vais.
On va pas demander à Didier parce qu'il est réfractaire en nouveau.
Je suis pas réfractaire en nouveau. Je parlais du cinéma contemporain, des blockbusters en fait. Mais il y a des nouveaux films qui sont quand même très intéressants. Je pense au cinéma anglais de Ben Wheatley ou des films un peu comme Human Centipede, des choses comme ça. Il y a quand même des choses qui m'intéressent.
Bon, ok.
Bon, merci à nos invités. En tout cas, merci d'avoir été présents. On vous remercie beaucoup. Vous êtes présents donc, je pense, aussi ce soir. Jusqu'au petit matin.
Oh oui, bien sûr.
Parce que là, j'ai l'impression quand même, quand vous en profitez pour voir vos amis de 5 minutes, c'est-à-dire ce qu'on ne voit que 5 minutes par an, vous en profitez pour qu'il y ait beaucoup de gros rouges qui tombent et c'est pas forcément du sang. parce que je vois les regards du staff et tout ça, et c'est, les nuits ont l'air d'être très longues.
Eh bien, détrompe-toi, je ne bois pas une goutte d'alcool.
Un film t'a fait peur, c'est ça.
On a fait la visite du downtown toulousain, en fait, par nuit, les cafés un peu...
Interlope,
où il vaut mieux pas laisser tomber quelque chose par terre, parce qu'on peut pas le ramasser, en fait, ça reste collé. Où il y a des bastons qui se créent rien que par notre présence, un peu... spectrale, je sais pas, donc...
Vous trollez, là.
Mais c'est pour ça qu'on a... On a des nuits courtes, effectivement, mais pas forcément très alcoolisées, enfin pas plus que d'habitude, quoi.
Bon, ben merci encore à vous trois, et puis bon, on espère, on vous croisera peut-être ce soir, alors pour la nuit de clôture.
Et l'émission est podcastée.
Oui. En fait, depuis 9 ans, tous les programmes sont disponibles en ligne, donc vous pouvez les récupérer et tout.
On vous enverra le lien.
Si vous avez adoré un film, Pacific Rim, on vous conseille l'émission du 17 août dernier où un odieux connard en a fait en live.
Le blogueur.
Une très bonne vision, assez intéressante, aussi amusante que celle sur son blog. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Radio FMR sur le supplément week-end. Non, c'est l'inverse en fait. En tout cas, on est à la Cinémathèque de Toulouse pour le festival Extrême Cinéma. Et merci de notre écoute. Ça me dit quelque chose, cette musique.
Ouais, alors... mais elle tombe au mauvais moment parce qu'il y avait une question pour les organisateurs, en fait. Donc on la lancera après.
Dommage, ok. Donc c'est loupé pour celle-ci.
On la lancera après. Si t'as un autre morceau pour faire la coupure musicale.
Je sais pas, j'en fous une au hasard. Hein. Mais promis, c'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est je vais pas mettre ça.
Là, il fait sa playlist en direct.
Oui et non, parce que en fait vous le voyez pas, mais je suis avec un PC qui est tout petit, qui a un écran d'un iPad mini. Mais c'est un vieux tromblon et j'ai pas tout à prog, donc c'est un petit peu en bazar complet. Sinon on peut-être parler, je ne sais pas, de ça.
Qui l'a vu? Ah non, Robocop, bien sûr, oui.
Attends, ouais, non, parce que c'est pas le bon écran, hop. Ouais, parce que là, en plus, on le fait en vidéo, parce que quitte à être fou... Hein.
Ouais, est-ce qu'il y a dans l'assistance ici des gens qui sont tombés sur le trailer du nouveau Robocop? Non? Bah, si t'as l'internet, là, tu peux nous mettre le... Pendant que je parle, tu peux nous mettre le trailer. Ouais, voilà. Donc c'est y a un beau casting dedans, hein. Il y a Michael Keaton, il y a Samuel Jackson, il y a Gary Oldman. Donc voilà, on va
Samuel
dire...
Jackson, il y avait pas des serpents dans l'avion plutôt,
hein. Des serpents, tiens, ouais, mais c'est vrai que Jeff Lieberman est parti là. Donc le nouveau trailer de Robocop, donc ça a l'air naze, hein, ça a l'air très moche. Rien à voir avec l'espèce d'esprit graphique chromé et très propre de Paul Verhoeven. Salutations, si tu nous écoutes. Ouais, bon, alors du coup, il y a de la pub avant. Voilà,
non,
tu peux faire skip ad.
Vas-y, continue.
Ouais, ben là, ben toi, tu peux balancer la vidéo puisque t'as Skip Ad juste à côté.
Ouais, mais tu vois, j'ai l'écran dans le dos. Donc je
ben, vois pas. Voilà. Alors, on va balancer le son peut-être.
Mais oui, mais il y est, mais ça, tu vois, c'est un écran où ils disent. Non, non, vous pouvez le voir.
Oui, c'est le PG machin.
You ready? This detective Alex Murphy is officer down.
We are on the eve of a technological revolution.
We need to give Americans a figure they can rally behind. Give your mom a kiss.
My baby.
Too slow, boy. We're gonna put a man inside a machine.
He suffered fourth-degree burns over 80% of his body. If he survives, he'll be paralyzed from the waist down, confined to a wheelchair.
You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have?
What kind of suit is this?
It's not a suit, it's you.
What the hell did you do to me?
Make him more tactical. Make him look, let's go with black.
When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will.
I've selected 13 targets all wanted for murder.
This is the future of American justice.
Alex! You need to speak to your son.
Somehow, he's overriding the system's priorities.
The human element will always be present. Compassion, fear, instinct. They will always interfere with the system.
Dead or alive, you're coming with me.
Ça me fait un peu mal.
Petit sondage dans l'assistance, là. Est-ce qu'il y en a qui ont trippé devant la bande-annonce? Est-ce qu'il y en a qui sont dégoûtés?
Moi, personnellement, je suis dégoûté parce qu'on a eu en 2008 sur ces micros, on a eu Julian Grant.
Oui, le réalisateur de la série Robocop Prime Directive.
Et j'ai l'impression que lui, il voulait en faire un Robocop très noir, très sombre et tout ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi.
Oui, oui, bah là, on est clairement dans le remake glacé avec le héros qui prend la pose. Souvenez-vous, Total Recall avec Colin Farrell. Pour ceux qui l'ont vu, voilà, on est dans le, on va utiliser des chromes noirs, des belles lumières avec des effets spéciaux de partout, des effets spéciaux numériques puisque bon, les effets spéciaux physiques aujourd'hui c'est un peu mort. Ouais, c'est Paul Verhoeven avait réussi à faire un film qui avait vieilli, qui avait entre guillemets mal vieilli mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu kitsch qui a jamais dénaturé les films de Verhoeven, ce qui était le propre aussi de Total Recall, justement, sa version.
Non, parce que là, et franchement, là, sur sa moto, mais non, mais... Ouais, plastique, mais moi, je pense un peu...
Bah, c'est des jouets.
C'est Batman, quoi.
Oui, c'est des... Ouais, ouais, il manque plus que le cuir derrière pour faire un truc un peu style. Mais le propre de l'ancien Robocop, c'était que c'était un truc mal dégrossi qui bouffait avec de la compote pour bébé, quoi. C'était ça, le truc. Donc voilà, donc ouais, c'est une époque révolue, 87 quand même, hein, le premier Robocop.
Et je tiens à rappeler, si vous avez vu le 2 et le 3, si vous ne le savez pas, c'est Frank Miller qui avait fait le scénario et il avait fait une BD, il a dit j'y vais à fond, de toute façon ils vont rien prendre de mon scénario. Il a été très surpris qu'ils aient repris plein de trucs de son scénario, mais pas tout. Parce qu'il y avait de quoi faire 5 films. Et ça a été adapté en bande dessinée et c'est actuellement publié chez Dark Horse, si je me trompe. C'est sorti depuis 2-3 ans, hein, en fait. Donc on peut lire le script de Frank Miller, mais en bande dessinée. Et c'est mais encore plus déjanté que...
Plus trash. Donc ah ouais, là, il n'y a pas de robot ninja, quoi, là.
Non, là, même pas. Par contre, c'est une putain de satire sur la société américaine, mais à un niveau que tu imagines même pas. Tu vois des personnalités se faire flinguer et tout, tranquillement.
Moi, sinon, je propose que, pour éviter à du sport s'endormir, on va te demander de faire ta prog télévisuelle, éventuellement.
Et oui, parce que, bah non, parce qu'en fait, on avait prévu de la faire avec...
Professeur Thibault.
C'est pas ça, c'est que au départ c'était pour l'interview du réalisateur qui s'est barré en plein milieu.
Et
et en fait on voulait faire un passage par un motel.
Je pense que là un petit laïus sur le Bates Motel ça devrait être pas mal là.
Si vous voulez, hein, y a pas de problème quoi. De toute façon, Bates Motel.
Qui a envie de voir cette nouvelle série de Canal
Non, c'est pas sur Canal.
Direct 8
Non, c'est sur 13e rue, me semble.
D'accord, ah oui, c'est vrai, oui.
Ouais. Donc, Bates Motel, vous connaissez tous le Bates Motel, bien sûr.
Mais Norman Bates.
Quelqu'un a déjà vu la série là, qui est en train de diffuser le. Ok. Donc, il pourra me taper si jamais je raconte des conneries. Quoi.
Toi, tu l'as vu, toi ?
Oui, bien sûr.
Bon.
C'est la moindre des choses. Donc, une série qui vaut surtout pour ses producteurs, hein, c'est-à-dire que c'est le concept est le concept que tout le monde connaît, sauf que ça a été réactualisé. Et que ce n'est pas simplement qu'une préquelle, c'est-à-dire ça nous raconte l'histoire de la jeunesse de Norman Bates. Il est adolescent, il a 17 ans au début de la série.
Il faut rappeler
sa maman,
qui est Norman Bates.
Hein, Norman Bates, c'est le type qui tient le Bates Motel dans Psycho, le film original de Hitchcock, avec Anthony Hopkins, et avec les suites également.
Anthony Perkins.
Perkins, oui.
Dit Hopkins.
Perkins, pardon. Donc, ce qu'il y a de bien dans cette série, pour vous mettre tout de suite à l'aise, c'est que, effectivement, on a un rapport mère-fils qui est un petit peu bizarre au début de la série. La série se situe donc de nos jours, c'est-à-dire que, ils ont des iPhones, ils écrivent avec des BIC, ils écoutent des Stones des années 80, bref, une famille moderne.
Et ils réservent des chambres sur Airbnb.
Et en fait, Norma Bates, puisque c'est son nom, la maman, vient d'emménager dans un nouveau petit patelin très sympathique dans l'Oregon. Ils viennent de racheter justement ce fameux Bates Motel. Donc le motel plus la fameuse maison qu'on connaît tous qui fait toujours partie des décors d'ailleurs que vous pouvez visiter si vous allez du côté de Hollywood. Sauf que il se passe quelques petites choses qui sont pas très sympas dans le village et que quand t'es étranger tu sais pas, t'es pas au courant comment ça fonctionne. Et si tu suis pas un petit peu le moule, tu risques peut-être d'avoir certains problèmes. Alors c'est pas mal, c'est vachement bien amené parce qu'il y a un petit peu le climat pesant qu'on retrouve dans les décors originels, on va dire, de Psycho. Mais il y a également la confrontation avec le monde extérieur. Freddie Highmore qui interprète le petit Norman Bates au lycée, ses rapports, des rapports traditionnels qu'on connaît dans les lycées américains, qu'on a pu voir dans d'autres films. Mais par contre, il se passe des trucs pas nets dans le village et à un moment, surtout dans les deux premiers épisodes de la série, on a l'impression d'avoir un psycho, mais revisité, un psycho qui serait déplacé dans Twin Peaks, genre avec des espèces de trucs un peu zarbi, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas net et tout. Bon, au bout du troisième ou du quatrième épisode, on se fait déjà une bonne idée de ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est bien ? Parce que, dit comme ça, ça peut être un truc un petit peu casse-gueule. Ça a été vachement bien écrit, à mon avis. On connaît le professionnalisme des scénaristes et producteurs américains. La Kerry Erin, déjà, c'est la caution féminine. Mais elle a déjà fait une très très bonne série en tant que productrice et créatrice. C'est Friday Night Lights, une série sur une équipe de foot universitaire américain. Boston Justice, Boston Public. Carlton Kouze, lui, c'est on va dire la caution dans le monde de la télé, c'est le mec qui a fait Lost, il a fait Nash Bridges, Briscoe County, donc respect pour ce mec, Briscoe County, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas Thomas ? Il y en a qui écoutent, ça fait plaisir.
Attends,
je fais comme vous, quand moi je lis mes chroniques. Hein.
Et il y a surtout donc le troisième de la bande, Anthony Cipriano, qui lui est un jeune, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui est le créateur original du concept, c'est-à-dire la modernisation du Bates Motel, la genèse de l'aventure entre ce qui reste de la famille. Parce qu'en fait, si Norma Bates arrive à acheter ce Bates Motel et tout ça, c'est parce que elle était mariée un type courtier en assurance et qui a eu un accident domestique, et ce qui fait que comme il bossait dans les assurances, elle a hérité de pas mal de pognon, ce qui lui permet ce pognon d'acheter le Bates Motel. Sauf que au bout d'un moment, je dévoile pas trop, il y a un deuxième fiston qui arrive, qui débarque dans la série. Et oui, Norman Bates a un demi-frère. Alors ça fait partie des petits trucs qui sont rajoutés au fur et à mesure et qui font que la série est relativement intéressante, parce qu'il faut dire que dès le début, dès le premier épisode, on est bien dedans et on se dit d'accord, c'est sûr, ils ont un truc pas clair. Et bah déjà, au fur et à mesure de la série, ben c'est renforcé par le fait que les acteurs sont vraiment très très bien. Vera Farmiga, on l'a vu dans plusieurs séries, on l'a vu dans Undercover avec John Seda, William Forsythe, Angie Everhart en 2001, on l'a vu dans Touching Evil en 2004 avec Jeffrey Donovan, Zach Grenier et Bradley Cooper. À l'époque, il n'était pas connu, le gars. Mm-hmm. Freddie Highmore, lui, ben, alors c'est marrant, c'est un Anglais, ouais, d'accord. Il a 21 ans. C'est bien pour un gars qui joue le rôle d'un gamin de 17 ans, il les fait bien. Par contre, on le connaît, vous l'avez déjà vu, parce qu'il a un rôle dans Arthur et les Minimoy, dans La Vengeance de Balthazar, et également dans Charlie à la chocolaterie.
Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas trop dans l'extrême cinéma là pour l'instant.
Ouais, non, mais bon.
Si, un petit peu, mais autre chose quoi.
Après, il y a d'autres acteurs hein, qui font que cette série, elle tient bien le choc, parce que bon, c'est quand même une série haut de gamme, il hein, faut dire ce qu'il y a. Nestor Carbonell qui joue le rôle d'un shérif, vraiment... on va dire, bon, et on sait pas tout. Lui, on l'a vu dans Ringer, dans Lost, dans The Tick. Rappelle-toi, Batmanuel.
Batmanuel.
Ouais, Batmanuel. Et il y a également Ian Hart, donc Terry Chen et d'autres acteurs comme ça, quoi, dans cette série. Bref, c'est en 10 épisodes la première saison, mais vraiment, ça a l'air passionnant. Le prochain épisode, c'est vendredi prochain à 22h15, donc sur 13e rue. 5e épisode de la série, mais c'est vraiment une série qui se laisse regarder. Et comme on a encore un petit peu le temps, tu m'accordes encore un petit peu de temps, Fred ?
Ah oui, oui, moi je accorde tout ce que vous voulez, tout comme temps.
Okay. Non, il y a une projection à 15h ici.
Ouais, non, pas ici, l'autre, enfin ici aussi, quoi, je suppose. Ouais, c'est tout. Non, vite fait. Alors, vite fait, la semaine télé, Extrême Cinéma.
Ah.
Oh, alors il n'y a pas grand chose hein, de toute façon. Alors déjà ce soir, si vous venez pas sur Ciné Plus Frisson, on vous propose la soirée. Mais là c'est dans l'ordre des New York de Carpenter. Alors d'abord le 97 et ensuite le 2013. Ça me va les mecs. Merci.
Non, c'était, pour une fois. C'était à Los Angeles.
Oui, le deuxième c'est Los Angeles, ouais.
2013.
Oui, mais Los Angeles, c'est pas New York le deuxième.
Oui, Los Angeles, oui, mais c'est pas grave.
Pour une fois, c'est moi qui reprends les animateurs.
Ouais. Demain sur TF1, il y a Avatar. Non, je plaisante. Spartacus plutôt sur Arte. Alors ça c'est plus cinémathèque, on va dire, mais pour commander la cinémathèque, bon,
bah faut oui, quand même spécial en parler un petit
peu. Lundi sur TCM Cinéma, Croix de Fer de Peckinpah, excellent. Senta Berger, ouais. Maxime Munchel, ouais. Mardi dans Ciné Plus Classique, Django l'original de Corbucci avec Franco Nero et Loredana Nucciac. Yaya. Mercredi sur Sci-Fi, Sharknado, t'en parlais.
Eh ben ouais.
Il est en prime time manga. Avec toujours Yann Ziering, bien sûr, hein, Beverly Hills.
C'est vrai qu'il est dans le...
Yann Ziering, bah ouais, Tara Reid aussi. Et suivi de Sound Sharks à 22h20 de Mark Atkins avec Jolie Marie Berman et Hilary Cruz.
C'est le requin des sables.
Ah oui. Les dents de la plage, ça s'appelle, quoi. C'est le sous-titre, quoi. Ou sinon, il y a plutôt sur TCM Le Grand Silence. Encore un Sergio Corbucci avec Trintignant, Kinski et Frank Wolf. Et je vais vous faire un. Je vais vous dévoiler un truc. C'est Trintignant qui s'appelle Silence.
Ah ouais, bon, mais ok.
Oh, les boules. Oh, ils ont plus envie de voir le film. Bon, désolé. Alors, jeudi, c'est Paris Première, le seul film d'horreur qui m'a jamais fait flipper ma race, à 22h55, L'Exorciste de Friedkin. Excellent, avec Lee Jacob.
C'est la purée de poids qui te fait peur ?
Ou sinon, sur Ciné Plus Frisson, là, à vos enregistreurs, la trilogie Pusher de Winding Refn. Dans son intégralité, le 1, le 2 et le 3.
Et dans la suite,
comme
la
ça.
Bonne suite.
Tranquille, oui, dans l'ordre, bien sûr. Sinon, sur Polar, La Mafia fait la loi de Damiano Damiani en 67 avec Franco Nero, encore lui, Claudia Cardinal, et Lee Jacob qui est de nouveau là. Et ouais, c'est tout ça, c'est pour vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, à la Cinémathèque, jusqu'à la fin du mois, c'est une programmation film italien des années 70. Et là, ça va tuer sa race. Vous ferez mieux d'aller à la Cinémathèque jusqu'à la fin du mois parce qu'il y a vraiment de très, très, très bons films italiens.
Il y aura du plomb et du surréalisme.
Je termine avec Vendredi Ukraine-France parce que c'est également très extrême de tenir 90 minutes avec l'équipe de France en ce moment, il faut le dire. Et donc sur 13e rue.
Je te signale que tenir 90 minutes quand même de notre émission, même dans des fauteuils très confortables, ça ne doit pas être évident.
Et donc, ils sont vachement plus confortables que ceux qu'on a à la radio.
Ouais, on les embarque. Il faudrait qu'on vienne tout le temps ici.
Sur 13e rue, donc, vendredi prochain, 22h15, un seul épisode, le 5e, Délivrance, il s'appelle, de cette série qui s'appelle donc Bates Motel. Ça t'a plu ?
Complètement.
Bon.
Mesdames et messieurs, professeur Thibault, l'un des artisans de la cinémathèque et l'un des grands savants fous de la programmation Extrême Cinéma.
Bonjour.
Bonjour à toi. Il y a du monde cette année.
Oui, ça va. C'est en plus du monde que je vois pas trop parce que j'ai beaucoup de choses à faire.
Pour ceux qui n'étaient pas là dans la précédente émission, on était invités. il a dit « Il n'y a personne, c'est un scandale !»
C'est pas lui qui l'a dit, c'est Franck.
C'est Franck, ouais.
Ouais, ouais, il était énervé, ouais.
Un peu.
Mais des fois, on
Là, il a un tel sourire que on dirait Oncle Scrooge.
Ça fait gling gling gling.
Bon, on est donc quand même dans, on est dans un musée, on est dans un lieu où le cinéma, oui, l'entrée est payante, mais ça, mais la rentabilité par le tiroir caisse n'est pas l'absolu. Et pourtant, et ben, on en est au 15e extrême cinéma. Et visiblement, ça marche.
On essaye de le faire marcher. Voilà. Chaque année, je dis que je vais arrêter.
À 15 ans, façon. Quand même, il est censé pouvoir faire ses sorties en scooter.
Oui. Mais chaque fois, on se dit qu'on va le saborder et on n'y arrive pas. Voilà. Extreme cinéma n'est jamais acquis, ça. Voilà. C'est, je ne sais pas si les gens ont bien conscience de ça.
Donc,
c'est-à-dire
donc
que
vous n'avez pas encore trouvé les gens qui vont pouvoir prendre le relais et puis.
Ouais, pas du tout. Mais moi, je cherche ça vraiment.
Qui vont vous permettre de profiter de l'extrême cinéma pour une fois.
Oh ouais, tout à fait. Ouais. Et puis de voir les films. En fait.
Oui, c'est ça.
Aucun
justement.
Film, je n'ai vu. Là, j'ai rien vu du tout. J'ai vu un court métrage. C'est tout.
C'est déjà pas mal.
Voilà, c'est un peu frustrant.
Ouais, mais les films, tu les vois dans la longueur d'année.
Oui, non. Tout ce qui est programmé est vu quand même. Hein.
Oui, quand même.
Voilà, voilà. Ça, c'est. Ça c'est un truc à nous quoi, voilà. Tout ce qui est programmé est vu. Et s'il n'y a pas d'avant-première, c'est que y a rien qui ne nous a plu. Voilà. On se force pas à passer des choses. Voilà, en se disant ça a buzzé sur le net, on va faire plein de gens. On y voit entrer, non. Voilà, on marche pas comme ça, du tout.
Alors cette année, vous faites dans le commercial, on a l'impression, pour la soirée de clôture du Chuck Norris, du Seuilhard, du réanimateur. À 15 ans, c'est parce qu'on est assagi.
Ouais, mais c'est pas très sage en fait, je trouve, comme truc.
Non, mais quand même à 15 ans, ils écoutent du métal.
Oui, complètement.
Je crois que quand même un ciné-concert à 4h du matin.
Non, beaucoup plus tard, 7h30 a priori.
Et vous avez pas des plaintes du voisinage?
Non, on va voir. Je sais pas. On va voir. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. On sait pas trop. Là aussi, ciné-concert, ça va être quelque chose de très 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 bizarre.
Alors, donc, on va parler tout à l'heure de la programmation de ce soir.
Mm-hmm.
On va plutôt parler de la programmation là maintenant, des doubles programmes.
Oui.
Plus des thématiques, mais des doubles programmes.
Plus de thématiques. C'est fini, on arrête.
C'est bien de rappeler un peu ce qu'était le club 1, 2, 3, non pas le Nouveauté, plutôt le Rex, le Rio, tous ces cinémas disparus qui passaient deux films aux pellicules complètement grattées et usées.
Non, le double programme est quelque chose de purement américain. Il y a très peu de salles en France qui ont fait des doubles.
Il y a
quelques cinémas de quartier à Paris qui faisaient ça, notamment le Brady. Mais sur Toulouse, moi j'ai été en salle dans les années 70 et 80, il n'y avait pas de double programme. Il y a eu plus ou moins des cinémas qui étaient spécialisés dans, dans certains... genre et encore que, voilà. Mais par exemple, là où est la FNAC, il y avait un cinéma qui s'appelait le Concorde. Il y avait deux salles. Et une salle était réservée aux films porno. Et l'autre salle, c'était un film d'horreur. Voilà. Moi, j'essayais désespérément de passer de la salle du film d'horreur à la salle du porno. J'ai jamais réussi.
Je me souvenais qu'elles étaient petites. Oui, parce que moi, je suis rentré, ouais. Monsieur.
Tu parles de quoi? De la salle?
Qu'est-ce que tu croyais? Le programme de ce soir, donc.
Attends, on parlait des doubles programmes. Donc, pourquoi ce choix des doubles programmes? Pourquoi avoir abandonné les
thématiques? Ouais, c'est Franck, le coprogrammateur d'Extrême, qui a eu l'idée. Déjà, on voulait dégager tout ce qui était thématique. Moi, j'en avais un peu marre parce que je trouve ça un peu péteux quelque part, la thématique, et puis surtout pour les spectateurs en fait, il faut suivre tout, donc c'est voilà, ça demande quand même un effort particulier, donc on s'est dit on enlève la thématique, on invite beaucoup plus de gens. Ça c'était la volonté aussi d'avoir une, deux, voire trois personnes dans la même journée qui puissent venir présenter des films et ce coup de double programme en fait c'est juste un clin d'œil Voilà, on aime bien cette philosophie du double bill. Voilà, un film pour le prix de deux. Bon, là, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et puis, ça nous permet après de. Ça libère vachement côté, côté prog, puisqu'on peut passer beaucoup plus de trucs.
Et justement, d'ailleurs, en fait, ce qu'il y a avant le film, c'est un court-métrage.
Ouais.
C'est la première fois, d'ailleurs, que dans ce festival, généralement, dans les festivals, il y a une remise de prix. Ben, c'est la première fois, il y en aura un.
Oui. Oui.
Et donc c'est autour de ces courts métrages.
C'est autour
c'est
de
ces. C'est pas évident à trouver quand même.
Les courts métrages.
Les courts métrages.
Bah, on est deux à programmer Extreme Cinéma. Moi personnellement, j'ai pas le temps de j'aime bien les courts, j'aime bien le format court. Mais on a pas. Moi, j'ai pas le temps de faire une sélection de courts métrages et de voir des courts métrages. Et Franck non plus. Donc il s'avère que j'ai été invité dans un festival très bon d'ailleurs à Lyon qui s'appelle Hallucination Collective. Et dans ce festival, il y a quelqu'un qui gère la programmation de courts métrages. Voilà. Et on lui a proposé donc de s'occuper de celle d'Extreme Cinéma. Voilà. Et donc il a accepté. Et donc et là par contre c'est lui qui fait sa sauce. Voilà. Le but du jeu aussi c'était de lui laisser carte blanche pour sa sélection. Voilà. Nous on n'intervenait pas du tout là-dedans quoi. Voilà. Donc après il s'est débrouillé et voilà ça donne ça. Mais ça fait partie aussi de cette volonté. Moi il y a par exemple Extreme Cinéma à 15 ans. Ça doit faire 14 ans que je rêve d'une case expérimentale. Et là aussi j'ai pas le temps, cette année-là, on a eu les courts-métrages de Curtis Harrington, voilà, qui étaient des courts-métrages expérimentaux. Puis j'y connais pas assez, je connais pas assez de choses dans cette frange du cinéma, à un moment donné, pour dire ah oui, on va passer ça, ça et ça. Donc peut-être qu'un jour, effectivement, il y a quelqu'un qui s'occupera d'une case expérimentale, ce que je souhaite.
Et du coup, cette élection, cette décernation du prix, là, c'est. Vous avez été faible cette année, vous avez succombé au prix ou c'était juste vous y pensez aussi depuis plusieurs années
Ah non, on y pensait depuis plusieurs années quoi. Mais c'est compliqué, c'est des trucs, ça paraît rien, mais c'est très compliqué à mettre en place. La sélection de court-métrage, ça prend quasiment autant de temps que de faire la sélection de long. Voilà, puisque là en plus les films viennent d'un peu partout, certains viennent de loin. C'est assez chaotique en fait. Donc jusqu'à lundi, alors pour vous donner une idée, ça fait, ça doit faire quoi, 4-5 mois que Benjamin travaille là-dessus. Et le dernier film est arrivé lundi. Voilà.
D'accord, ok. Ce qui est intéressant, c'est que donc le jury du prix, ce sont des étudiants de l'ESAV, si je me trompe.
Pas de l'ESAV. On a fait là pour le coup, on voulait un jury jeune. Moi, je veux, un jury. Au départ, l'idée c'était jury professionnel, mais là aussi, c'est ça m'emmerde. Hein, voilà, je préfère que ce soit je préfère que ce soit des étudiants rigolos, qui découvrent un peu. Le but du jeu, c'est.
Donc, c'est les étudiants qui viennent d'où?
D'un peu partout en fait. Leur cursus, je le connais pas, je l'ai pas en tête.
Non, parce que franchement, il y a quelque chose qui ne m'étonne même plus de votre part. Que le festival Extreme Cinéma tombe en même temps que le moment où la fac du Mirail soit en grève.
Ça, c'est. Voilà. Donc, et ce truc de jury en fait, c'est. Si on a un jury professionnel, les gars, ils découvrent rien, quoi. Ils connaissent tout. Le but du jeu, c'était de prendre ces jeunes-là et puis de dire vous êtes dans un festival de cinéma, vous allez voir donc, bien évidemment, les films de la compétition. Vous allez les voir en salle parce qu'on n'a pas fait de séance, parce que ça aussi, c'est trop simple de faire une séance de court-métrage. Donc, on s'est dit non, vous allez venir les voir en salle, etc. et voir comment ça marche un peu de l'intérieur. Voilà, c'était aussi le but du jeu pour eux d'aller grappiller des infos à droite et à gauche. Donc ils ont pu rencontrer Jeff Lieberman et Gérard Kikoin. Donc c'est un peu le jour et la nuit en termes de rencontres. Mais voilà, ils ont aussi rencontré des gens d'autres festivals, etc., etc.
Sur donc la programmation Extreme Cinéma, il y a quand même un public qui est complètement ignoré chaque année. C'est un petit peu dommage parce que nous vieillissons tous. au fur et à mesure, et certains ont des enfants. Alors, à quand une programmation extrême bout de chou?
On en a eu. Mais là aussi, c'est pas, il y a pas de volonté de faire de cases enfants ou de cases adultes ou. Je veux dire, on passe des films, point. Alors, il peut s'avérer que, effectivement, des fois, qu'il y ait eu et il y aura certainement un film que les enfants peuvent voir, quoi.
Thomas.
Peut-être bientôt.
Je pense que là, je vais remettre le jingle qu'on a.
Oui, loupé, vas-y. Hein, mets le jingle.
Voilà. Voilà, attends, il faut que j'arrête ça parce que en fait, je me rends compte qu'ils ont deux musiques différentes. Je passais pas exactement la même musique à l'antenne que ce qu'ils écoutaient dans la salle. C'est sportif en fait, la réalisation comme ça. Et ben donc, c'est la séquence des spectateurs.
Et oui, nous avons des auditeurs qui nous écrivent pour poser des questions, hein, soit aux membres de l'équipe, soit aux invités. Et là, nous avons un auditeur qui t'adresse ainsi qu'à Franck une question. Bonjour, quand est-ce que vous invitez le sympathique Eduardo Sanchez du projet Blair Witch qui vient de réaliser un film sur le Bigfoot? Il serait tellement content qu'il viendrait à ses propres frais. Au passage, je l'ai interviewé pour mon magazine, pas cher, signé Monsieur Eddy du magazine 7ème Dimension.
Quel connard celui-là! Il a fait sa pub!
Pourquoi pas? Mais son film sur le Bigfoot, je suis assez curieux parce que j'aime bien les films de Bigfoot.
Toi aussi, tu es fétichiste du pied, alors.
complètement. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, ce serait assez intéressant puisque on a quand même cassé pas mal de sucre sur le dos de ces deux réals qui avaient fait le projet Blair Witch, qui continue d'ailleurs à faire des choses et qui sont pas trop mal. Alors, je sais pas si c'est lui. Qui a fait un film dont je ne me souviens plus le titre, mais qui était vachement bien, ça se passait dans un tout petit village aux États-Unis, et c'était une bande de rednecks qui kidnappait un extraterrestre. Ah. On va dire que c'était l'inverse de ce qui se passe d'habitude. En fait, il kidnappait un extraterrestre et pour le torturer. Voilà. D'accord. Et ça, c'était vachement bien. Voilà, c'est un tout petit truc qui c'est pas sorti en France, sorti en DVD aux États-Unis, mais je sais plus si c'est Eduardo Sanchez ou l'autre. Voilà.
Mirik ou je sais plus comment il s'appelle l'autre.
Ouais.
Sanchez. Ouais.
Voilà. Alors pour ces réalisateurs là aussi, parce que chaque fois on me dit ah oui pourquoi pas lui, pourquoi pas lui, pourquoi pas lui, pourquoi pas lui, c'est compliqué par rapport à l'accès au film. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait pour Jeff Lieberman, par exemple, cette année, je ne sais pas si on le refera pour quelqu'un d'autre, mais c'est compliqué d'avoir accès aux copies, les faire venir, parce que là, pour le coup, Lieberman, ça venait de loin, et surtout les faire sous-titrer. Voilà, ça coûte un bras.
Hein. Vous avez fait sous-titrer exprès pour le festival?
Oui. Là, ça coûte un bras, quoi, voire même deux.
D'accord,
ok. Donc, allez au cinéma, venez à la cinémathèque, vous verrez vraiment des films qu'on ne voit plus ailleurs.
Oui, là pour le coup, ouais, certain, ouais.
Mais du coup, après, est-ce que vous rentrez dans vos frais en faisant tourner la copie après que vous avez fait sous-titrer à vos frais ou pas?
Ça, je dirais pas.
D'accord, ok.
Non, bien sûr que non, c'est impossible. C'est impossible de rentrer dans ces frais.
Okay.
Avec un prix d'entrée à 5 euros, la place à la cinémathèque, c'est quelque chose comme ça. Voilà, on a.
Mais après, dans le réseau des autres cinémathèques, vous faites tourner la copie après ou pas?
Non, parce que là, les copies ne sont pas à nous. Là, par exemple, le rayon bleu qui est passé hier soir, la copie vient d'Angleterre. Et Survivance qui va passer tout à l'heure à 19h, là, la copie vient des États-Unis. Voilà, il a fallu trouver un collectionneur aux États-Unis qui avait une copie. Et encore, il faut la louer. Il ne nous l'a pas prêtée gratuitement comme ça. Et bien évidemment, il y a le transport. Ça coûte cher, c'est une copie de film, c'est 30 kilos, plus l'assurance, voilà.
D'accord.
C'est aussi un petit peu exceptionnel, mais il y a une exposition au rez-de-chaussée,
oui.
Visuelle, assez bluffante et très bien foutue, Gudule et Galipette, avec même un stand de vente où il y a des objets vraiment sympathiques. C'est pas quelque chose que l'on a souvent, effectivement, à la Cinémathèque, d'avoir des installations. Il y a eu du théâtre et trucs comme ça, je me souviens, au rez-de-chaussée, des trucs un petit peu délirants.
On a fait un peu de tout.
J'adore ton petit regard comme ça, côté transgressif. agressif. Sur le lieu de travail, je vais faire des trucs complètement pétards. Et là,
voilà, on m'a refusé une expo. On m'a refusé un truc il y a quelques années. C'était une expo de vêtements sadomasochistes.
Regardez le petit regard là.
Ça, on me l'a. Voilà, c'est un truc qui a été refusé. Bon, à la fois, je comprends. Voilà, il y a des enfants qui passent et tout ça. C'est pas.
Pour Extrême Cinéma, il y a des enfants.
Non, mais qui peuvent passer dans le hall, donc. Voilà, je comprends que c'est été refusé, mais j'aurais bien aimé le faire. Gudule et Galipettes, c'est. Moi, quand je me déplace, que je vais en festoche, etc., s'il y a, évidemment, très souvent, on trouve le stand de DVD, le stand d'affiches, avec tous les geeks autour là, qui regardent et tout. Je trouve ça un peu, là aussi, un peu emmerdant. Et par contre, ce que je trouve d'intéressant, c'est de croiser les trucs, voilà, tout simplement. C'est là, pour le coup, voilà, il y a de la peinture, il y a des objets, etc. Et ça permet de croiser les choses. Déjà, d'emmener Gudule et Galipettes à l'intérieur d'une cinémathèque, voilà, avec leur côté punk. Et ça permet aussi aux gens qui sont là très souvent, enfin qui viennent très souvent à la cinémathèque, de découvrir aussi un peu autre chose. Voilà. C'est juste pour croiser, voilà. Je veux pas là aussi pas du stand de DVD et tout ça.
La programmation de ce soir, un petit mot.
Surtout
sur la nuit de clôture, donc la nuit des Verts Géants, ça on en a parlé, donc ça c'est un petit peu, non c'est pas l'ouverture puisqu'il y a d'abord la remise du prix.
Oui, on va remettre le il va falloir qu'on aille assez vite d'ailleurs, on va remettre le prix du court-métrage, donc le film gagnant bien entendu sera rediffusé. Et puis après on attaque, voilà.
Donc Mad Mission de Tsuark.
Mad Mission,
oui.
3.
Ouais. Tu désespérais que Thomas vienne.
tout à fait. Et c'est alors c'est beaucoup plus basique que ça. Je sais pas si je devrais le dire, mais c'est pour l'anniversaire d'un ami.
D'accord.
Ah, pas mal.
Qui va fêter ses 40 ans ce soir. Et je lui ai dit, écoute, ça te dirait pas de venir pour Extrême Cinéma? Il me dit, ouais, mais non, mais je fête mes 40 ans et tout. Et ben, j'ai dit, ben, choisis un film que tu veux voir en salle. Voilà, et il a choisi Mad Mission 3.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Pourquoi ce film?
Je pense parce que c'est relativement stupide. et qu'il adore ce genre de truc. Mais voilà, mais c'est aussi bête que ça, non, vraiment. Et voilà. Et donc pour le coup, il sera là, il est content. Voilà. J'espère qu'il dira quelques mots avant le film.
Réanimateur de Stuart Gordon. C'est un petit hommage comme ça.
En même temps, qui c'est qu'il a pas vu? Qui a pas vu celui-là?
De quoi? Réanimateur?
Ouais.
Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu en salle. Déjà. Et puis ça fait 10 ans que je cherche le film. Donc là, je l'ai trouvé cette année. Voilà.
Ok. Trouvé
au Luxembourg.
Moi, je l'ai pas vu. Hein.
Ah, il faut le voir. Réanimateur est un monument.
T'as quelques images là, si tu veux le faire défiler pour l'assistance. L'un des plus beaux défenseurs des toisons velues, Chuck Norris.
Oui, là aussi, ça fait longtemps que je voulais passer un Chuck. Je trouve que ça se. Je trouve que ça va bien, avec ce type de programmation, quoi. Voilà, c'est des films qu'il faut passer, durant des nuits, en toute décontraction.
Donc c'est œil pour œil, hein.
Oui, c'est œil pour œil de Steve Carver, voilà, avec David Carradine quand même.
Ah oui, c'est vrai, on a oublié préciser.
Oui, là.
Donc après, il y a un court-métrage, il y a Survivre, il y a un ciné-concert.
Oui.
Et le.
Il y a toujours le film mystère.
Il y a un film mystère, mais là, en plus, le ciné-concert, il est un petit peu exceptionnel pour l'état de la pellicule.
Il n'y a pas de film surprise, voilà. Ça a été très compliqué de faire ces ciné-concerts de clôture. C'est excessivement complexe à mettre en place. Pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'on trouve des gens qui veuillent bien jouer donc à 7h du matin pour 0 euro. Voilà, donc c'est un peu on paye en coup à boire, en gros, ce ciné-concert de clôture. Et on a eu un gros souci sur celui-ci, puisque le groupe qui était destiné à jouer, en fait, nous a planté à la dernière minute. Voilà.
D'accord, ok.
Et donc, du coup, on a trouvé deux personnes qui se sont formés pour l'occasion et qui vont le faire. C'est très court, ça va faire une vingtaine de minutes. Hein.
Voilà. Formés, ça veut dire qu'en fait, ils ne savaient pas faire de la musique jusque-là.
Ne crois pas si bien dire, parce que alors, je vais pas parler du second membre, enfin de la deuxième personne. Il y en a un, c'est moi. Je ne suis absolument pas musicien.
Ok.
D'ailleurs, je ne sais pas faire de musique. Voilà. Et en plus, je suis sourd.
Oui, ça j'avais remarqué, mais je crois que
c'est
pas seul. Hein, dans le lot.
Donc, la deuxième personne est une musicienne. Voilà.
D'accord.
Elle sait jouer, voire bien, voilà. D'accord. Et moi, pas du tout, donc.
C'est un scoop là. Du coup, personne n'était au courant que c'était toi qui jouais.
Ouais, personne n'était au courant. Ouais.
Ok, j'espère que personne n'écoute la radio là dans le festival alors.
Et juste les gens de la Cinémathèque, voilà. On a quasiment pas répété, donc. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, on sait pas.
D'accord.
Merci professeur Thibault, tu passeras le merci à Franck et à toute l'équipe technique de la Cinémathèque. Il nous reste 50 secondes pour faire le résumé pour ceux qui n'ont pas, non ?
Bah tout, écoute, quand on est occupé à dialoguer sympathiquement avec nos invités, on n'a pas le temps de faire le résumé. Donc
Bon, alors tant pis, si vous avez manqué une partie de l'émission, eh ben n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi des précédentes. N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous écrire pour le courrier des auditeurs et nous insulter copieusement ou nous remercier, ce que vous voulez.
Posez vos questions aussi.
Ou allez consulter les archives, n'hésitez pas, supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne suis pas là et top, il est 14h, donc ça a coupé à l'antenne.
Personne ne saura que t'es pas là alors.
Voilà, super, mais au moins vous assurez.
Oui.
Enfin, j'espère.
On parlera d'enlèvement avec ce fantastique acteur sous-employé qui est Hugh Jackman dans le film Prisoners.